Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Christine Bouchard, directrice de la programmation culturelle. Bibliothèque et Archives nationales du Québec est fière de présenter la deuxième saison des Midis littéraires, animée par la journaliste culturelle et écrivaine Aline Apostolka. Cette série d'entretiens avec des écrivains marquants de la littérature québécoise nous permettra de mieux connaître leur travail, leurs sources d'inspiration, leur rituel d'écriture autant que leur aspect de leur vie qui ont fait connaître leur désir de création. La rencontre sera suivie d'une période de questions. Vous pourrez réentendre l'enregistrement de cet entretien sur notre portail Internet. En même temps, je voudrais vous dire que le 11 octobre, on recevra pour une rencontre l'écrivain Naïm Katan. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Apostolka, qui vous présentera le premier auteur à se prêter au jeu, une des figures les plus marquantes de la littérature québécoise, le romancier et dramaturge Michel Tremblay. Je vous souhaite vraiment une très belle rencontre et en terminant, n'oubliez pas d'éteindre vos cellulaires et qu'il est interdit de prendre des photos. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien de vous voir comme ça, réunis pour cette deuxième saison de ces rencontres littéraires bien singulières, d'autant qu'elles se font rares en ville, et au sein d'un lieu qui est lui aussi singulier et unique et qui marque maintenant notre ville, la Grande Bibliothèque de Montréal. Puisqu'écrire est avant tout un cheminement, c'est l'occasion, dans ces rencontres, de remonter avec l'auteur les sentiers de son cheminement personnel et professionnel en parallèle. 10 rencontres québécoises et francophones sont ainsi prévues au calendrier de cette deuxième saison 2007-2008. Alors aujourd'hui, j'ai la grande joie de débuter cette nouvelle saison avec un auteur immense. Je préparais bien sûr cette rencontre et je me disais, mon Dieu, comment aborder une œuvre aussi colossale ? Cet écrivain dont le talent et la production sont tout à fait hors normes, et ce depuis 50 ans. Au fil des biographies, on le compare à Balzac, se référant à son monde foisonnant, peuplé de personnages colorés et récurrents, à Colette, à cause de l'amour du coin de pays originel, ou à Mordecai Richler, à cause de la critique sociale toujours présente. Son monde, c'est tout un monde, souvent enchanté et finalement désenchanté, qui constitue en vérité une œuvre à aucune autre comparable, au théâtre comme dans le roman. Elle est une et multiple et toujours maîtresse. En 50 ans d'écriture, notre invité du jour a en effet créé une trentaine de pièces de théâtre, plusieurs scénarios de films, des traductions et des adaptations, un opéra, une comédie musicale ainsi que 23 romans. Il s'apprête d'ailleurs à publier son 24e roman dans moins d'un mois. La plupart de ses pièces et romans ont été traduits et plébiscités à l'étranger. Alors, bien sûr, c'est une œuvre gigantesque qui a reçu une vingtaine de prix, des distinctions, des doctorats honorifiques, entre autres prix l'Ordre des Chevaliers des Arts du Québec, le prix Athanase David pour l'ensemble de l'œuvre, le prix du gouverneur général et le prix du lieutenant-gouverneur général du Québec, l'Ordre des Arts et des Lettres de France, le prix de la Ville de Montréal et du Salon du Livre de Montréal, le prix Molson du Conseil des Arts du Canada, le prix Elle Québec ou le prix littéraire du Québec. Ce serait trop long de parler tout seul entre nous, nous allons accueillir, comme il se doit, M. Michel Tremblay. Alors, on avait des doutes qu'ils soient au rendez-vous, mais ils sont au rendez-vous.
Alors, bienvenue. Le midi, comme ça, on a toujours peur qu'il n'y ait personne. Je me vois devant 6 personnes, mais on l'aurait fait quand même.
Oh ben, on l'aurait fait de toute façon, mais les gens préfèrent se nourrir de littérature parfois.
Ben oui, mais tant mieux. Même à l'heure du midi, alors c'est pas mal.
Justement, l'heure du midi. Michel Tremblay, c'est une série particulière, comme je vous le disais, qui en fait se propose un cheminement un peu inédit entre la vie personnelle et la vie littéraire, et d'une certaine façon de voir comment votre vie a fait de vous un écrivain aussi. Alors la première question qui se doit, qui ressemble à une question de police, mais qui n'est pas une question de police, et qui est toujours la même, nom, prénom et date de naissance.
Oh mon Dieu, Gratien Dubé. Je suis le fils naturel de Marcel Dubé et de Gratien Gillina. Non.
Ça commence bien, c'est un personnage.
Alors, Tremblay Michel, 25 juin 1942, et oui, je reçois mes prestations de pension de vieillesse depuis 3 mois. Humiliation, ben non, humiliation, non.
Ben, au moins pour vous, ça fonctionne. Pour qui ça ne fonctionne pas vraiment. Donc, vous êtes bien sûr, on le sait, né sur le plateau rue Fabre. Une des premières choses qu'on m'a dites quand je suis arrivée moi-même sur le plateau pour vivre là, on m'a dit « Ah, vous avez choisi le quartier de Michel Tremblay ». Mais est-ce qu'il y a encore vraiment trace de ce quartier-là aujourd'hui?
Non, je ne pense pas, parce que c'était un quartier d'ouvriers. Ça n'est plus du tout un quartier d'ouvriers. Je pense que l'arrivée... Moi, je m'explique ça comme ça. L'arrivée de Radio-Canada, où c'est maintenant, là, ce qui était autrefois, le Faubourg Amelas, on a détruit un quartier. Moi, je travaillais à l'imprimerie judiciaire, je me souviens, qui est maintenant la taverne de Mme Bolduc. Je ne sais pas, Mme, en tout cas, bon, les gens qui connaissent Radio-Canada vont manger là. Et en 1963, j'étais linotypiste en imprimerie. Et j'ai vu ce quartier complet, le quadrilatère complet de Wolfe à Delormier et de, en bas, c'est Notre-Dame, je ne sais pas, jusqu'à Dorchester à l'époque, se faire démolir complètement. Et ça, c'est un quartier très populaire qu'on appelait, vous ne l'avez pas connu, le Faubourg Amelas. Et ça a fait déménager, a fait comme shifter, pour parler français. C'est comme si tout avait monté un petit peu au nord, tout ça. Et ça a chassé en même temps par effet de vague, si vous voulez, le reflux. Ça a chassé les gens du plateau Montréal qui sont, pardon, qui sont aussi montés venant, qui sont allés à Saint-Léonard, à Rosemont. Et là, les gens qui autrefois étaient, voulaient travailler à Radio-Canada, qui étaient dans l'Ouest à cette époque-là, se sont mis à chercher des choses qui étaient moins loin et ont envahi le plateau Montréal qui s'est, encore une fois, pour parler français, qui s'est, mais je pense qu'on le dit en français, qui s'est gentrifié un peu, qui est devenu un autre quartier complètement, qui est un quartier très, très, très BCBG, qui est formidable, qui est très beau, mais qui n'a absolument plus rien. Je me promenais sous le Mont-Royal il y a une semaine ou deux, et je me suis rendu compte qu'il y a 2 ou 3 bâtisses qui sont restées à peu près pareilles. Si vous allez au coin de Fabre et Mont-Royal, côté sud-est, il y a la taverne Normand qui est là, et c'est magnifique parce que
Mais ils ont refait la devanture.
La devanture, elle est sur le côté, les tuiles noires avec le petit dessin, la petite frise verte, là. Ça, c'était exactement comme... C'est resté exactement comme c'était dans mon enfance. Et il y a... C'est pas le 2 minutes lent, mais un petit peu plus loin, il y a un restaurant qui a la même enseigne que dans les années 50, mais sinon, le Vieux Mont-Royal au complet... C'est transformé.
Moi, il y a là mon magasin de lingerie, mais c'est une autre histoire.
Chez Scheller, c'est en face de la taverne Normand.
Exactement. Alors, on va rester dans ces années 40, dans ce quartier-là. Et qui étaient vos parents? Je sais que...
Ça coûte pas. Excusez-moi, je savais que vous me regardiez, ça
coulait
pas. Quelques ratés,
ben avant de commencer l'entrevue. Ça on s'est perdu pas. Dans les couloirs, maintenant l'eau ne coule pas.
Il est bien intelligent, mais il n'est pas capable de se verser un verre d'eau.
C'est le mythe de l'écrivain.
Ben oui, mon père était pressier en imprimerie.
Oui.
Et c'était un spécialiste de la couleur, qui était plutôt rare à l'époque. Là. On parle des années 40. Et c'était... À tel point que des fois, quand il y avait des machines, des machines qui cassaient, je me souviens quand j'étais enfant, il partait des fois pour Ottawa, pour Toronto, parce qu'il y avait une machine qui était brisée, puis c'est lui qu'on appelait parce que c'était comme le grand spécialiste de la couleur. Et ma mère était...
C'est Armand Tremblay.
Armand, lui-même. Et ma mère était fille d'une crie de Saskatchewan qui était déménagée au début du siècle, au tournant des deux siècles derniers.
On en parlera
qui était allé, oui, qui était allé travailler à Providence, comme beaucoup de francophones du Canada avaient fait, et d'un marin français qu'elle avait rencontré là, à Providence, dans Rhode Island. Donc, du côté de ma mère, je suis à moitié français, à moitié cri, et du côté de mon père, je suis parfaitement québécois pure laine, parce que ma grand-mère est une demoiselle Tremblay qui a marié un monsieur Tremblay. Alors, je suis Tremblay, du côté de mon père. Donc, je suis un hybride.
Vous avez dit, ma mère avait le sens du drame, mon père celui du ridicule, c'était un match parfait. Finalement, c'est resté beaucoup dans, je dirais, cette double composante, oui. Y compris dans vos personnages.
Mais des fois, mes personnages, je leur donne les deux à un personnage. Mais dans le couple de mes parents, c'était assez fascinant. Ma mère, c'était toujours... Il y a
Racine.
Une scène d'Amarcord de Fellini, quand ils sont autour de la table, je ne sais pas si vous vous souvenez, et puis que le fils gâté, avec un net sur la tête, là, il fait quelque chose, puis la mère dit qu'elle va se suicider en s'ouvrant la bouche, comme ça. Là. Et le père rit d'elle. C'est exactement la relation, pas officielle, mais publique, si vous voulez, de mon père et de ma mère. Ma mère était éminemment dramatique. Tout était dramatique, ou tout était comique, mais bon... Quand c'était dramatique, c'était épouvantable, mais mon père avait une façon d'en rire. C'était peut-être la seule personne dont elle pouvait accepter qu'il rit d'elle. Elle comprenait que ça n'avait pas de bon sens ce qu'elle faisait. Nous, si on faisait la même chose, elle nous tuait. Mais lui, il y avait comme,
C'est la marque de l'intimité.
Un certain bon sens aussi. Il y avait une façon de le faire qui faisait que... Sans lui dire « tu vas trop loin », il disait quelque chose, je vais dire « non ».
Je sais que votre mère a eu une influence considérable, peut-être sur votre métier, mais déjà sur votre amour de la littérature très tôt. Est-ce que cet amour-là venait d'elle ou ça venait de vous dès le début et dès votre entrée à l'école?
C'est sûrement un mélange des deux, parce que ça vient avant l'école. Il y avait un réseau de lectrices sur la rue Fabre. Il y avait... en face, j'en parle, je ne me souviens pas dans quel lit, il y avait Mme Allard en face, il y avait ma mère et ma tante, et il y avait les mères de mes amis, et il y avait tout un réseau, c'est des femmes qui lisaient beaucoup. Alors, comme à l'époque, à la bibliothèque, à la bibliothèque municipale à l'époque, on pouvait prendre juste 3 livres par 2 semaines, c'est des femmes qui lisaient vite. Alors, elles prenaient chacun 3 livres par 2 semaines, mais elles se les passaient. Dans les 2 semaines, tout le monde se passait. Alors, il y avait une espèce de réseau de... Ce qui fait que il y a tout. Et en plus, il y a une chose très importante qu'on a oubliée, historique. Excusez-moi, il faut que je boive de l'eau souvent, pour des raisons évidentes. Il y a une chose très importante qu'on a oubliée, c'est que pendant la guerre, donc je suis né en 42, pendant des années, comme il n'y avait pas de contact entre l'Amérique et l'Europe, je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus vieux d'entre vous s'en souviendront, mais il existe encore, c'est des beaux petits livres. La collection de Nelson, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est une couverture crème avec un quadrillé vert pâle. Hein? Et c'est des livres en français qui étaient à l'époque imprimés à Édimbourg. Et pendant toute la guerre, évidemment, on ne pouvait pas importer des livres d'Édimbourg ici. Et c'est à Montréal que ces livres-là étaient imprimés. Et mon père ne travaillait pas là-dessus, parce que, comme je l'ai dit, il travaillait sur la couleur. Mais mon père, à un moment donné, a travaillé dans un plan qui produisait ces livres-là, ce qui fait qu'il avait gratuitement... Alors, pendant toute mon enfance, j'ai eu la collection... je ne savais pas lire encore. Mais on avait à la maison la collection complète, ou du moins la partie qui s'était imprimée à Montréal. Donc, il y avait des livres. C'est comme ça que j'ai connu très tôt... Les Contes du lundi, par exemple, qui était, je me souviens, je pense que je l'ai encore, d'ailleurs, ça, depuis 60 ans. Et donc, il y avait beaucoup de livres, et mon frère faisait son cours classique, donc il y avait beaucoup de livres. La légende veut, mais ça, allez croire les légendes, la légende veut que, avant que j'aille à l'école, je me promenais avec un livre en disant à tout le monde que j'avais hâte de savoir lire, mais ça, est-ce que c'est ma mère qui inventait ça, mon père, ma tante, je ne sais pas, là, mais ça l'a l'air.
Mais en tout cas, c'est le souvenir d'une femme dramatique, mais qui lit.
Oui.
Et donc, vous rentrez à l'école où et à quel âge?
Mon Dieu, on va jusque-là, écoutez. À l'école Bruchézy, donc en...
C'est là où va mon fils.
C'est 2-8. À l'école Jean Bruchézy en 48, en septembre 48.
Ah oui. Quel était votre rapport à l'école, je dirais, à l'ensemble de l'enseignement?
J'adorais l'école. J'étais toujours l'étudiant, l'élève d'abord, l'étudiant en plus, le plus haï de l'école, parce que j'étais toujours le seul à tout aimer à l'école. J'aime encore, à 65 ans, j'aime apprendre. J'aime ça, apprendre des affaires. J'aime apprendre des choses. Et quand je suis arrivé à l'école, qu'on m'a montré, la première lettre qu'on nous montrait, c'était le L. Avant le A, on nous montrait le L. Et pour comprendre ce que c'était, la maîtresse avait une cloche, puis parce qu'elle disait que la cloche faisait le. Ensuite, elle a ajouté le A, I, O, U, mais toujours avec le L. Donc, quand j'ai comme compris le processus de l'apprentissage de quoi que ce soit, je suppose, il y a des sujets que j'aimais moins que d'autres, bien sûr, c'est évident, mais c'est pas apprendre comme comprendre. J'aime comprendre des choses. Apprendre, je pense que c'est comprendre que je voulais dire. C'est que quand je comprenais, quand est arrivé l'algèbre, par exemple, plus tard, à partir de ce qu'a fait studieux, A plus B. Et quand je comprenais, là, je trouvais ça extraordinaire de comprendre comment ça marchait, pourquoi le théorème existait, et CQFD, puis tout ça. Et là, je me prenais de passion, je revenais en arrière et je le refaisais pour le comprendre. J'aime beaucoup faire ça. C'est pour ça que j'aime les corrections quand j'écris, par exemple. Je dis toujours à mon metteur en scène, quand c'est une pièce ou à mon éditeur, quand c'est un roman, laissez-moi me rendre au bout, me le raconter à moi une fois, puis je reviendrai après. Et des fois, je passe autant de temps à corriger que j'ai pris, que j'en ai mis à écrire, parce que j'adore. Tout est là, je comprends.
On prend le mécanisme.
Puis à partir du moment où je comprends, là, je peux revenir en arrière puis réparer des choses.
Alors, vous avez été à l'école de 1948 à 59, en fait, en pleine noirceur, si on peut dire.
La fin de la noirceur.
La fin de la noirceur.
Il y avait une petite lumière au bout du tunnel.
Qu'est-ce qu'on apprenait? C'est ça.
La religion, et la religion. Il y avait trois sujets.
Mais
c'est vrai, je sais pas s'il y a des gens qui ont le même âge que moi, je regarderai personne, là, mais. La religion était mêlée à tout. Quand on y repense, quand on essaie d'expliquer ça aux jeunes, ils ne comprennent pas, je pense. C'est-à-dire qu'ils comprennent, mais ils ne peuvent pas le sentir. C'est que la religion était partout, même dans le français. Quand on apprenait le français, les exemples qu'on nous donnait et les phrases qu'on nous donnait à analyser venaient de la Bible ou du... Pas de la Bible, on n'avait pas le droit de lire ça. Il y avait trop de femmes tout nues là-dedans. Bon.
Les évangiles.
Alors, c'était le Nouveau Testament. Alors, tout venait, même les exemples de français, nous venaient de la religion. Alors, on était imprégnés de religion. Et c'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, à la magnifique émission, on en parlait ce jour-là, là, je ne sais pas trop, l'émission où c'est des moments importants, on voyait... Le cardinal Léger parlait contre le rock'n'roll et c'était absolument fascinant, les souvenirs de honte qui remontaient en moi de voir, quand j'ai eu 16, 17, 18 ans, j'ai commencé à comprendre un peu comment ça fonctionnait, de voir un homme comme ça oser venir parler de gestes indécents. Tout était tellement fait sur la honte et la peur et l'humiliation, que c'est pas étonnant que, quand on s'est révolté, ça s'est fait rapidement.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a la honte, mais en contrepartie, il y a aussi la fulgurance, parce qu'on peut aussi mesurer, à partir d'émissions comme celle-là ou de souvenirs comme celui-là, la fulgurance de la transformation à laquelle vous avez participé, mais on n'est pas rendu
dans les années 70. Oui, okay, on n'est pas rendu là. Mais quand on est dedans, on ne le voit pas, par exemple. En tout cas, on reviendra tout à l'heure.
Non, c'est sûr. On a appris ici, pour parler de Bible, par exemple, que Gaëtan Soucy, qui était assis à votre place il y a quelques mois, qu'il avait appris à lire dans la Bible. Et vous, est-ce que vous vous souvenez quel premier livre vous avez lu tout seul?
Selon un ange connu avec des ailes de tôle, ce serait L'auberge de l'ange gardien. C'est le premier livre dont je garde un souvenir, disons, complet, là, que je me souviens d'avoir lu un livre d'un bout à l'autre dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'images. Un livre sans images, sans illustrations. Il y en avait un petit peu, mais presque pas. C'est le premier souvenir de livre complet que j'ai, si vous voulez. J'ai sûrement lu des choses avant, des livres pour enfants, des choses comme ça. Mais un vrai livre sérieux, je pense que c'est celui-là.
Mais c'est déjà de la littérature en soi. Est-ce que vous aviez des héros?
Oh, on ne le savait pas, ça.
Non.
Quand on est jeune, c'est pour ça qu'il faut lire les classiques, c'est pour ça qu'il faut lire les livres qu'on a aimés. Parce que quand on est jeune, quand tu lis, je ne sais pas moi, Guerre et paix à 17 ans, tu lis pour l'histoire qu'on te raconte. Oui. Tu ne vois pas ce qu'il y a en dessous. Quand tu le lis 40 ans plus tard, tu dis « Oh mon Dieu, c'est ça que ça voulait dire. » J'ai fait ça il y a 2 ans avec Crime et châtiment, que j'avais jamais relu depuis mes 15 ans, 16 ans. Puis j'avais été bien pâmé par le personnage puis tout ça, mais je n'avais pas compris ce que ça voulait dire.
Mais aujourd'hui, comme écrivain, il y a une sorte de déformation professionnelle qui fait qu'on lit les livres pour voir aussi comment l'auteur a fait.
C'est drôle hein, que vous me disiez ça parce que oui, pour le cinéma, oui, pour le théâtre. Pour la littérature, je ne sais pas. Je me laisse encore embarquer. Quand je vais au théâtre, je sais comment c'est fait. Je connais les acteurs, je connais tout le... Bon, le cinéma aussi, je connais assez ça. Je n'ai pas fait beaucoup de cinéma, mais j'en ai fait assez. Mais pour la littérature, pour la fiction, les romans, je suis encore capable de me laisser aller complètement à me laisser... Oui, me laisser aller complètement sans essayer. C'est-à-dire qu'au théâtre, j'essaie de comprendre comment c'est fait. Mm-hmm. Quand je lis un livre, j'essaie de comprendre ce qu'on veut me dire, mais je n'essaie pas de voir comment la personne a fait cette chose-là. Puis ça, je me laisse aller à ça.
Je me souviens, il y a quelques années, on avait aussi une entrevue, et vous me disiez qu'un livre marquant de votre adolescence était « Les enfants du capitaine Grant ».
Oui.
De Jules Verne.
Qui fait aussi partie du même livre. Non, je connais avec des ailes de taule. Oui. Oui, mais là, c'était une histoire beaucoup plus personnelle. C'est que dans Les enfants du capitaine... Je me suis servi de ça 2 fois, de ce que je vais vous raconter. Là. Dans Les enfants du capitaine Grant, c'est un petit gars dont le père est marin et qui disparaît et qui a la chance, je ne me rappelle pas comment, là, qui a la chance de partir à la recherche de son père. Alors, quand j'ai lu ça, j'avais quoi? 12 ans, 13 ans, Jules Verne, tu sais, 12, 13, 14 ans. Et quand j'ai lu ça, quelque part, j'ai comme jugé mon père. On a toujours un petit peu honte de nos parents quand on, à la préadolescence et souvent pendant l'adolescence. Et je me suis dit, hey, il est donc bien chanceux. Lui, il s'en va en Patagonie à la recherche de son père. Il part des Français, il part peut-être de France, je pense. Puis il s'en va, il traverse l'Atlantique, il traverse l'Amérique du Sud, il traverse la Patagonie à pied, il grimpe les montagnes. Et là, j'ai trouvé mon père plate. J'ai trouvé mon père ennuyant. J'ai dit, mon père, il est spécialiste de la couleur, mais il imprime des affaires. Et j'ai eu un petit peu honte de mon père. Et je pense que j'ai dû en parler à ma mère, qui a dû en parler à mon père, parce que vous la connaissez peut-être, cette anecdote-là, je la raconte souvent, mais... Un matin, mon père m'a pris par la main puis m'a emmené chez Steinberg, le premier Steinberg que j'ai connu au coin de Bordeaux et Mont-Royal. Donc j'étais jeune, j'avais pas 13 ans, j'avais peut-être 12 ans. Et il m'a emmené dans une allée, puis il m'a montré les... si vous la connaissez, dites-le moi, je l'ai tellement raconté. Il m'a montré l'allée de soupe Campbell, toutes les étiquettes de soupe Campbell, puis il m'a dit, regarde, les soupes Campbell sont toutes de la même couleur. J'avais dit, ben oui. J'avais jamais pensé à ça, mais oui, c'est de la même couleur. Mm-hmm. Puis il avait dit, écoute, pour que toutes les étiquettes soient de la même couleur en Amérique du Nord, dans chaque ville où on imprime les étiquettes Campbell, on donne le secret du rouge Campbell à un imprimeur, à un pressier. Et ici, à Montréal, c'est ton père. Fait que là, le petit gars avec la Patagonie pouvait aller se réhabiller. Mon père est devenu une espèce de héros. Et je vous jure que c'est vrai, le lendemain, je suis allé à l'école et j'ai dit à tout le monde que mon père avait inventé le rouge Campbell. Déjà, je commence pour dire. Mais tout à coup, c'est des choses qui te font comprendre inconsciemment, mais qui te font comprendre la vie. C'est pas nécessaire d'avoir un père aventurier pour que ton père soit intéressant. Bon, vous l'aviez compris. Mais bon.
Ça voulait dire aussi que l'aventure pouvait être dans quelques coins de rue, ce que vous nous montrerez plus tard.
Ça, je ne le savais pas. Ça, je ne le savais même pas quand j'ai écrit Les Belles-Sœurs. Je dis ça, c'est venu d'un besoin. C'est pas.
Ni les chroniques du plateau, parce qu'évidemment. Alors,
aux chroniques, je le savais. Franchement, entre 68 et 78, j'ai eu le temps d'y penser. Mais quand j'ai commencé à écrire en québécois, non, ça, je ne le faisais pas pour prouver qu'on était universel, je le faisais parce que j'en avais besoin.
On va arriver bientôt aux belles-sœurs, mais pas tout de suite, parce que là, on est à l'adolescence. Et justement, je me demandais, parce qu'on a l'impression de connaître plus l'influence directe ou indirecte, réelle ou imaginée de votre mère, et de ce qui lui est arrivé à elle, mais comment est-ce que vos deux parents vous ont influencé? Qu'est-ce que vous gardez d'eux si vous y pensez aujourd'hui?
Ben, ma mère, c'est évident, là, j'ai fait une pièce là-dessus, c'est son sens du théâtre et du drame. Mon père, malheureusement, dans un sens, mon père était vraiment le type, le Québécois typique. Là. D'abord, il était sourd, alors c'était difficile d'avoir un contact. De plus en plus sourd, il était moins quand j'étais enfant, mais donc c'était difficile d'avoir un contact direct avec lui. Il était toujours sur son quant à soi. C'était quelqu'un de plutôt privé. Et j'en ai hérité un petit peu. On me dit que je suis très difficile d'accès. C'est-à-dire que je peux mettre mes tripes devant vous à midi, mais si vous venez me parler dans une demi-heure, je vais avoir l'air bête. Il semblerait que je ne sois pas quelqu'un de liant, alors que je le suis dans mes entrevues, mes interviews. Alors, j'ai hérité ça de mon père, mais j'ai aussi hérité ça de tous les hommes québécois dont on dit que c'est une race d'hommes qui ne parlaient pas beaucoup, ce qui est...
J'allais vous demander si c'était vrai, vous l'avez vécu en tant que tel.
Oui, oui, absolument, oui. Il fallait qu'il soit un petit peu pacté pour... C'est pour ça qu'il... C'est peut-être pas pour ça qu'il buvait, là, mais il se dégênait quand il se buvait.
Quels sont les événements marquants de votre adolescence qui ont fait que vous...
ça aussi, je l'ai déjà dit, mais c'est tellement important. Je pense qu'un adolescent heureux ne pourrait pas devenir un artiste.
Oui.
Oui, je l'ai dit souvent, hein, c'est ça que vous dites?
Non.
Pas le talent, mais... Le talent d'artiste vient toujours, je suis convaincu, toujours des problèmes d'un adolescent, d'une adolescente. Une petite fille qui n'a pas de problème, elle ne s'assied pas pour écrire des poèmes. Puis un petit gars qui n'a pas de problème n'a pas envie de faire un film dramatique sur le suicide, là, aujourd'hui, là, disons. C'est bien évident qu'on a des talents. Le talent, c'est comme la beauté, c'est injuste. Là. Il y a des gens qui sont plus capables que d'autres d'exprimer des choses de façon, disons, artistique. Mais le goût de le faire, le besoin, pas le désir, le besoin, ce qui fait qu'un enfant va s'asseoir en 56, à 14 ans, qui va s'asseoir à une table pour exprimer quelque chose, vient forcément de ses problèmes. Parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a rien à exprimer ou au lieu de dessiner des choses dramatiques, il va dessiner des petites fleurs. Je dis, who cares? Alors, c'est sûr que ce qui m'a fait écrire, c'est, soit les premières injustices, soit ma découverte de l'homosexualité, quand en 1956, tu n'allais pas voir tes parents pour dire, by the way, devinez quoi? Alors, tu es forcément obligé de le garder pour toi. Alors, c'est drôle parce que c'est une expression qui n'existe pas en anglais, mais l'expression « se confier à la page blanche » est tellement belle à ce sujet-là, sur ce côté-là de l'écriture. C'est vraiment, quand on commence à écrire, je suis convaincu qu'on se confie vraiment à la page blanche. Et quand il y a des jeunes des fois qui me demandent « qu'est-ce qu'on fait pour être publié? » Puis je leur dis « à ton âge, je ne pense pas à ça. Là. Si tu penses à être publié, tu vas te censurer. » Les premières écritures sont tellement importantes qu'il ne faut pas qu'elles soient censurées. Il faut que ça vienne du mal-être, du désespoir. C'est important que ce soit exprimé. Et c'est probablement les enfants qui ne peuvent pas l'exprimer qui se suicident. S'ils pouvaient l'exprimer d'une façon ou d'une autre, une thérapie de dessin, n'importe quoi, mais l'exprimer, le sortir de soi, exactement comme je dis toujours qu'après mon cancer, il y a 2 ans, écrire le trou dans le mur, il fallait que j'exprime cette horrible chose-là qui m'était arrivée, sinon j'aurais étouffé. Alors, les enfants qui ne s'expriment pas étouffent.
Il y a le besoin, mais il y a aussi le talent et la capacité. Donc, il faut tout de même avoir un certain nombre d'outils dans sa besace.
Je le disais tout à l'heure, c'est comme la beauté, c'est injuste. Il y a des gens qui ont plus de facilité ou de goût d'exprimer les choses, mais ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que tout enfant qui va s'asseoir pour... Excusez-moi, je suis assis sur mes reins. Ma mère m'aurait chicané. que cet enfant-là... c'est pas parce que tu t'assois pour écrire des choses que tu es un écrivain non plus. Je veux dire, il y en a peut-être des millions d'enfants qui écrivent des choses, puis on les connaîtra jamais, mais ces choses-là leur ont fait du bien autant que mes premières œuvres m'ont fait du bien à moi aussi.
En tout cas, pour vous, la source est là. Je sais que vous avez écrit un premier roman complet, en fait, à 17 ans. C'est ce que j'ai
lu. Pas tout à fait 17, oui. Non, c'est... Oui, peut-être que j'avais 17. Ma première pièce a été écrite... La mémoire, je gagne ma vie avec ma mémoire, que je voulais. Ma première pièce, c'était à Pâques 59. Donc, j'avais 16 ans, j'allais avoir 17 le 25 juin. Alors, si vous avez dans vos notes, j'ai dû écrire ce roman-là après le 25 juin. Donc, j'avais 17 ans. Mais c'est sûr que c'est en 59.
Ben oui, enfin, en tout cas, dans, c'est quand même très
tôt. Un roman complet,
à
l'époque,
ça?
C'était 28 pages. Là, c'était pas 350 pages, là. Oui, c'est une nouvelle pour un petit gars de 16 ans.
C'est quelque chose de complet.
Oui, c'est quelque chose. C'était la première fois que j'arrivais à exprimer quelque chose qui avait un début, un milieu, un développement et pas tout à fait une fin. Comme d'habitude, ça finissait sur une patte.
Vous avez commencé à faire des petits boulots tout en vous inscrivant comme étudiant en art graphique. Alors, bien sûr, quand on est sur le plateau, on connaît le maintenant légendaire Ticoque. Où vous étiez, c'était votre premier job. Il y a eu différents...
J'avais 12 ans.
Ah oui, 12 ans.
J'ai livré des barbecues à pied de l'âge de 12 à 16 ans dans le quartier, dans le plateau Mont-Royal. À pied, hiver comme été, printemps comme automne. Mes petits sacs.
Mais à quel moment est-ce que vous avez consciemment décidé d'être écrivain?
Oh, toujours tôt. Mes parents ont commencé par trouver ça joli. Et puis, quand est venue l'adolescence, là, ils ont commencé à trouver ça un peu niaiseux parce que, pour eux, c'était pas un job, c'était pas un travail, c'était pas... on gagnait pas sa vie avec ça. Ce en quoi ils avaient tout à fait raison. À cause du milieu où je suis né et de l'éducation que j'avais, c'est-à-dire que la scolarité que j'avais, il y avait une chance sur un million pour ce qui m'est arrivé m'arrive. Mais
c'est toujours le cas, de toute façon. Pas dire
mais quand
plus.
On vient d'une famille plus aisée puis qu'on a la chance d'aller au collège, il y a plus de chances quand même. Là, il n'y en avait vraiment pas, surtout que j'ai quitté l'école après une forte 11e année. Donc, il n'y avait pas de... C'est parce qu'à l'époque, les écrivains, c'était des gens lettrés, mais lettrés des jésuites. C'était des produits des jésuites la plupart du temps. Ils faisaient leurs cours classiques. Des fois, ils venaient du milieu ouvrier, mais la plupart du temps, ils venaient d'un milieu plutôt bourgeois. Ils étaient formés par les jésuites et ils devenaient des écrivains. Soit ils réagissaient, puis ça donnait des œuvres anti-religieuses, soit ils allaient dans le droit fil de ce qu'on avait essayé de leur inculquer. Mais un fils d'ouvrier, Marie-Claire Blais, qui est arrivée avant moi, qui a fait la même chose, qui a eu à peu près le même cheminement que moi à Québec, qui, elle aussi, n'a pas fait d'école, puis elle a écrit son premier livre, elle avait 17-18 ans. Elle est arrivée en 59, moi, je suis arrivée en 68.
Quel était votre rapport, déjà, à cette époque-là, je dirais, aux autres, à vos amis, à votre frère aussi? Est-ce que vous étiez un adolescent plutôt renfermé avec sa page blanche?
J'étais renfermé, mais comme je le suis maintenant, je suis renfermé, entouré de dizaines de personnes. J'ai beaucoup d'amis. J'ai toujours eu beaucoup d'amis. Je faisais partie d'une gang. On était 22 sur la rue Fabre. Je dis que c'est 22 parce qu'on les avait comptés à l'époque. Mais j'étais très solitaire. Ce qui me rendait solitaire, c'était l'homosexualité, évidemment. Je ne pouvais pas en parler, même à mes meilleurs amis, même à mes plus grands amis. Il a fallu que je rencontre Brassard pour que j'accepte publiquement, puis en tout cas, puis... Déjà, là, c'était en 63, c'est beaucoup plus tard. Comme je me mettais en marge moi-même. Plus tard, il m'est arrivé des choses aussi. Je ne le fais plus, je pense que je ne le fais plus. Je le souhaite, mais longtemps dans ma vie, j'ai pensé que j'étais quelqu'un de plate. Et j'avais tellement peur d'être ennuyant que je faisais exprès d'être ennuyant pour être sûr que mes amis me disent « Il est donc ennuyant. » Je ne prenais pas de chance. Je courais devant les couches. Si j'étais dans... j'ai tenu table ouverte pendant tout le temps que de ma maison de la rue d'Avard dans les années 70-80. Alors, tous les soirs, il y avait des fois 7, 8, 10, 12 personnes qui mangeaient, puis on avait du fun. Et après, je m'en allais dans la cave, puis j'écoutais de la musique. Puis là, il me disait, tout le monde disait, mais il est bien plate. Mais je le faisais exprès parce que j'avais peur qu'en restant à table, je sois plate. J'avais peur d'être plate, alors je mangeais pour l'être complètement. Alors, ce qui fait que j'ai toujours été comme un solitaire plongé au milieu d'une... sinon d'une foule, d'un groupe.
C'est le début des années 60. Qu'est-ce que vous écoutez, alors, justement? Tout ce qui est interdit par, par le monseigneur en question? Ou,
Je ne sais pas. Si je ne pense pas avoir fait de réaction de cette façon-là. Une fois, oui. À un moment donné, je lisais un Victor Hugo, puis là, l'anathème m'est tombé dessus, et le directeur de l'école, Victor Hugo est à l'index, vous n'avez pas le droit de lire ça, mais vous n'avez pas honte, on sait, vous êtes bon en français, puis vous êtes intelligent, mais vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Alors, je suis allé dans l'index, parce que mon frère était professeur, donc il y avait l'index, et je suis allé voir s'il n'y en avait pas un qui n'était pas à l'index, et il y en avait un qui n'était pas à l'index, qui est son premier roman, qui s'appelle « Anne d'Islande », très connu, livre très connu de Victor Hugo. Alors, le lendemain, je suis arrivé à l'école, puis j'ai posé mon « Anne d'Islande » sur ma table. Puis, je lisais « Anne d'Islande », là, le professeur, encore, il n'est pas à l'index, j'ai le droit de le lire, celui-là.
Ah alors, oui!
Il a failli me tuer, mais bon. C'est peut-être première. Une des seules fois où j'ai réagi
directement
comme ça à la religion. Sinon, je me cachais pour lire, pas parce que c'était défendu. Je n'ai pas lu, par exemple, la Lady Chatterley pour la page 91. Là, je l'ai lu parce que c'était un roman qui m'intéressait. Je lisais des choses qui m'intéressaient. D'ailleurs, tout le temps que j'étais, on appelait ça en bas puis en haut, à la bibliothèque municipale, il y avait les enfants de 6 ans à 16 ans. C'était le sous-sol, le demi-sous-sol. Et ensuite, à 16 ans, là, tu avais une promotion, tu pouvais monter en haut. Et je rêvais, les deux, trois dernières années, j'avais tout lu ce qui m'intéressait chez les enfants. Et comme je n'avais pas d'argent pour m'acheter des livres, les livres de poche n'existaient pas encore, je rêvais d'être promu. Je rêvais de monter en haut pour lire des... pas parce que c'était des livres défendus, mais parce que ça m'intéressait là, d'aller ailleurs. Là. J'avais tout lu ce qui m'intéressait chez Jules Verne, puis les Beagles, puis tout ça. J'avais envie de lire quelque chose de plus sérieux.
Je sais qu'il y a une figure de frère, entre autres, dans Hôtel Bristol, mais est-ce que vous partagez avec votre frère votre envie de devenir écrivain et tout votre monde?
J'avais deux frères. Il y en a un qui est décédé en 94. J'étais plus près de lui. Il faisait le même métier que mon père. Non, mon frère, le plus vieux, qui existe encore, qui vit encore, j'avais peu de rapport avec lui pour la simple et unique raison qui est que j'ai partagé ma chambre avec lui jusqu'à l'âge de 26 ans. Alors, au contraire de ce qu'on peut imaginer, ça ne crée pas des liens pantoute. Alors, je ne me suis jamais entendu avec lui. C'était l'eau et le feu. Encore maintenant, il refuse complètement ma façon de vivre, puis mon œuvre au grand complet. Puis
Alors là, on est rendu en 64.
C'est les belles sœurs, c'est 65.
Ah, je sais, on en arrive là bientôt. Non, mais là, on est dans ce que moi, j'ai appelé petit 3, propédeutique.
Une demi-heure pour arriver, trois quarts d'heure pour arriver jusqu'à 64.
Ah oui, bon, imaginez. Non, propédeutique. Non, en fait, c'est vraiment des années qui sont marquantes, ces années 60, tout à fait considérables. 64, premier prix au concours des jeunes auteurs de Radio-Canada avec Le Train.
La fameuse première pièce que j'avais écrite quand j'avais 16 ans. Et c'est drôle, j'avais écrit cette pièce-là, puis je l'avais oubliée. J'ai écrit plusieurs pièces après, bien sûr. Et quand le concours des jeunes auteurs a commencé, j'ai envoyé deux pièces qui n'ont pas gagné. Ils n'étaient même pas en nomination. Alors, insulté de ne pas avoir gagné. Quand est venu le temps de soumettre Le Train, quand on concourait, on envoyait le texte, on signait d'un pseudonyme. on mettait une enveloppe, on mettait son vrai nom dans une enveloppe, mm-hmm. puis bon. Et moi, j'ai mis un pseudonyme dans la deuxième enveloppe, par pur orgueil, au cas où il ouvrirait la lettre, même si je ne gagnais pas, puis qu'il voyait que le gars s'appelait Michel Tremblay. Alors, j'ai soumis ça parce que si je ne le faisais pas, il aurait été trop tard. Après, j'étais trop vieux. J'allais devenir trop vieux. J'avais 21 ans quand j'ai gagné 22, presque 22. Donc, c'était la dernière année. Et c'est une pièce que j'aimais beaucoup. Je l'avais redécouverte, puis je me disais, je vais l'envoyer. Et j'ai gagné. Tant mieux pour moi.
Bien sûr, c'est un début important, puisque cette pièce va être jouée au Petit Théâtre de la Place Ville-Marie. Et ça va être...
Un soir, censuré le lendemain.
Un soir. Ah! Déjà, c'était bon. Ben, au moins, ça marque une censure.
C'est les deux autres pièces sont restées là un mois, mais la mienne, le lendemain, boum, elle n'existait plus.
On en arrive à un point dont je voulais parler avec vous, parce que ça vous vaut quand même ça, ce démarrage-là, d'être boursier du Conseil des arts du Canada
en
67-68, et de partir au Mexique pour écrire votre premier roman, d'ailleurs, entre autres. Et je sais qu'on a aussi déjà parlé de ce rapport à l'ailleurs et à l'écriture, et ça m'a toujours beaucoup intéressée, parce que ça n'a jamais cessé. Aujourd'hui, c'est Key West, mais dès le début, vous avez ce besoin, en fait, d'écrire sur Montréal, mais hors de Montréal.
Mais quand on est dans un monde aussi fermé, c'est bien évident que le rêve devient important, que la possibilité... D'ailleurs, la première fois que je parle de la grosse femme, dans la grosse femme d'à côté est enceinte, elle s'imagine être à Acapulco, au bord de la mer, enceinte, avec entourée d'enfants. Je donne aussi à mes personnages ce rêve de s'en sortir. On ne le dit plus aujourd'hui, ça, mais quand j'étais enfant, on entendait ça tous les jours, un jour je vais m'en sortir, je vais faire quelque chose de ma vie, je ne peux pas rester enfermé comme ça. D'où l'importance dans ma vie, tout de suite, quand j'étais enfant, l'importance du fantastique, mm-hmm. l'importance des choses...
La Patagonie.
Imaginaire. Non, mais plus fantastique que ça encore. Le vrai Edgar Allan Poe, le monde imaginaire que j'ai donné à Marcel dans les chroniques du Plateau Montréal, qui le sauve et qui le tue à la fin, mais qui commence par le sauver. Et même les chroniques du Plateau Montréal sont... Il n'y a jamais personne qui a dit ça, personne ne s'en est rendu compte, enfin, je parle des critiques, là. Mais si on regarde la structure des chroniques sur le plateau Montréal, le premier se passe dans une rue, le deuxième dans un quartier, le troisième dans une ville, le quatrième, le gars part pour l'Europe, il revient, le cinquième, on revient dans le quartier, et le sixième, on finit dans la tête d'un schizophrène. Alors, c'est des cercles concentriques comme ça qui vont... Alors, c'est bon. Alors, s'il y a un critique dans la salle, là, je vous l'apprends peut-être.
L'écriture est en soi l'ailleurs, je dirais par excellence, avant l'ailleurs définitif. Mais quel est justement ce besoin de reproduire un monde à distance, non seulement dans le temps, avec la mémoire, mais aussi dans l'espace? Parce que finalement, c'est à regarder le plateau de loin que vous l'avez reconstitué d'une certaine façon.
Mais je dis toujours que... Ce qu'on est aujourd'hui, on se l'explique plus par notre passé récent que par le passé passé. C'est pour ça que je suis revenu beaucoup sur l'enfance, sur les années 40. Là, je suis rendu en 1913, là, mais c'est autre chose, c'est nouveau. Mais c'est notre passé récent qui nous fait comprendre qui on est. Il y a peut-être que toutes les langues ont un dicton comme ça, mais il y a un dicton mexicain qui dit « si tu veux savoir où tu t'en vas », retourne-toi pour voir d'où tu viens.
Oui.
Et c'est, dans mon cas, en tout cas, c'est probant. Je reviens souvent en arrière et des fois, je reviens pas longtemps en arrière pour essayer de comprendre. Je l'ai dit mille fois, ça, mais pour moi, l'écriture est une lettre que je m'écris à moi-même pour m'expliquer le monde. Quand j'écris, c'est parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a un sujet ou il y a un sujet qui me choque. C'est pas que je veux le régler, mais je veux l'analyser pour essayer de comprendre pourquoi c'est fait comme ça. Et c'est à ça que me sert l'écriture. Si les autres aiment ça, après, tant mieux, mais le premier besoin que j'ai, c'est d'exprimer quelque chose vraiment comme un plan. Là, je me dis, comment est-ce que cette maison-là a été construite? Je me fais un plan, puis je me dis, ah oui, c'est comme ça. C'est la même chose dans la tête des gens, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est peut-être comme ça que ça fonctionne.
Comme vous faisiez
d'une façon amateur, parce que je ne suis pas ni un psychologue, ni un psychiatre.
Bien sûr. Mais la cité,
comment,
dans
bien sûr?
La cité dans l'œuf que vous écrivez au Mexique paraîtra en 70, mais avant ça, paraissent les belles-sœurs
en
68. Bien sûr, c'est un coup de tonnerre dans votre vie, mais aussi, bien sûr, dans la vie artistique et littéraire québécoise encore aujourd'hui. On a l'impression que Les Belles-Sœurs, c'est l'apothéose de votre œuvre, alors que c'est la propédeutique, comme je disais.
Mais souvent, les premières œuvres, on dit ça des jeunes artistes, que les premières œuvres contiennent déjà tout ce qui va venir après. C'est normal aussi, on met tout. Les Belles-Sœurs, ça peut être, c'est pas une pièce qui a été écrite pour être jouée. C'est une pièce qui a été écrite par le besoin, par quelqu'un qui, trois jours avant, ne savait pas qu'il avait le besoin d'exprimer ça, puis qu'il le fait. Alors, il y a tout. Même au niveau de la langue, au niveau du québécois, du joual, si vous voulez. Les Belles-Sœurs est ma seule pièce dont je peux dire qu'elle est une espèce de répertoire d'expression québécoise. Mm-hmm. J'ai pas senti le besoin après d'utiliser autant d'expressions typiques de mes parents, de ma tante. Après, dès ma deuxième pièce, dans La Duchesse de l'Anjou ou dans La Pièce détachée, déjà, c'est toujours en joual, c'est toujours en québécois. Mais c'est pas un. Là, j'ai tout mis. Dans Les Belles-Sœurs, j'ai tout mis des expressions que je n'ai jamais réutilisées après. Ça ne prendra pas gouttinette, par exemple. Je ne l'ai jamais réutilisé après. Mais ça, c'était important pour moi, à ce moment-là, de le voir écrit sur une feuille de papier. Et c'était pas pour être joué. C'était pas dans le but d'être joué. C'est parce que j'avais besoin de le faire.
Comment est-ce qu'on vit un tel succès, cette pièce absolument, d'abord, incroyable, mais qui a parlé au monde entier, qui s'est mise à parler dans des langues différentes?
On ne l'a pas su. Ça, on ne peut pas savoir au départ. On ne l'a pas su avant, je ne sais pas moi, ça, ouais. Les Paris en 73. On devient
pas
star.
Après. C'est quand même pas très longtemps après.
Oui, c'est 5 ans après, oui. On devient star, malheureusement. Qu'on ait 26 ans ou qu'on ait 50 ans, quand le succès arrive, forcément, c'est... Je dis souvent que je suis très chanceux d'être Québécois, enfin, d'être issu d'un petit pays, parce qu'un succès comme Les Belles-Sœurs dans un pays comme les États-Unis, par exemple, m'aurait tué. Les auteurs, il y a quelques auteurs, il y a le merveilleux Albi, qui écrit encore à quasiment 80 ans, mais les auteurs américains souvent sont tués par le succès. Le succès est tel et l'argent est tel déjà que pour un gars qui vient d'un pays de 5 millions d'habitants francophones, je gagne pas bien ma vie, mais si vous multipliez ça par 275 millions de personnes aux États-Unis, l'argent tue tout. Si j'avais fait autant d'argent avec Les Belles-Sœurs qu'un auteur américain n'aurait fait avec cette pièce-là, avec l'effet qu'elle a eu sur sa société aux États-Unis, ça m'aurait tué. Je n'aurais probablement plus jamais écrit quoi que ce soit après.
Ça aurait été trop gros.
Oui.
Mais vous savez qu'il n'y a pas 276 millions de personnes qui lisent aux États-Unis.
Non, enfin, mais parce que pays... même si c'est 10 %, ça fait 27 millions
de barils. Pas mal, pas mal.
C'est plus que 500 000.
Je voulais poser plusieurs questions autour des Belles-Sœurs, parce que cette pièce n'a pas fini de voyager. Elle est récemment devenue une pièce de flamenco,
oui.
Avec Laura.
L'avez-vous
Jean.
Vu?
Oui, je l'ai vu. Mais oui, c'est incroyable, j'y pensais pas du tout. Mais comme j'ai interviewé la chorégraphe, je sais que c'est parce que toutes les œuvres de Garcia Lorca ont été transformées en flamenco, et donc elle a décidé de transformer les Belles-Sœurs en flamenco.
Compliment.
C'est étonnant. Ah oui, c'est un très beau compliment. Il y a autre chose, bien sûr, je ne peux pas passer à côté du fait qu'on fête les 30 ans de la Charte de la langue française, en ce moment même, et cette pièce a créé un scandale de par l'utilisation du joual du québécois. Quand vous regardez, vous repensez à ça aujourd'hui, avec quand même le tremblement de terre que ça a été, cette affirmation de votre part, par rapport au théâtre qui vous précédait, mais aussi par rapport au théâtre auquel ça a donné naissance, comment vous l'analysez aujourd'hui?
Bien, c'est juste que c'est vrai que la culture appartenait à une élite pour qui ce qui était culturel venait d'ailleurs. Par exemple, jusqu'en 70 quand même, le Théâtre du Nouveau Monde n'avait monté qu'une seule pièce de Marcel Dubé. Marcel Dubé, Garcin Gélinas produisait ses pièces lui-même. Le Théâtre du Nouveau Monde, le Théâtre du Rideau-Vert, à l'époque, n'aurait jamais produit une pièce de Garcin Gélinas, ni une pièce de Marcel Dubé. Il faisait du Félix Leclerc parce que c'était folklorique, mais la culture venait d'ailleurs. La culture devait d'être beau. C'était quelque chose, d'abord et avant tout, de beau, de chic, de poncé. Et donc, ça venait d'ailleurs, parce que nous, on ne pouvait pas être beau, chic et poncé, ça ne se pouvait pas. Alors, quand c'est pas tellement les belles-sœurs qu'une génération. C'est que la même année, une génération d'artistes qui ne se connaissaient pas a tout à coup dit la même chose en même temps, sans se concerter. Il y a eu, en 68, il y a eu les deux pièces de Légende du charme. Avant ça, il y a eu l'Hostie Show au Katsu, qui était en mars 68, je pense. Ensuite, il y a eu les deux premières pièces de Légende du charme, Inespéré, Inattendu et Le Cid Magané, qui ont été jouées dans un théâtre d'été, et fin juin, début juillet. Et ensuite, il y a eu les Belles-Sœurs en 68. C'est pas les Belles-Sœurs tout seules. Mm-hmm. C'est le fait qu'une génération de gens qui ne se connaissaient pas, les gens du champ, bon, on ne les connaît pas encore, mais moi, je ne connaissais pas, je n'avais jamais rencontré ni Yvon, ni Robert, ni Louis. Louise, oui. Mais on ne se connaissait pas les uns les autres. Puis tout à coup, il y a une génération complète qui a dit la même chose par besoin, pas. Je peux pas dire que c'est une protestation, enfin, pas dans mon cas. C'était pas une protestation, c'était un besoin de dire. Comment dire? Je sais pas, ça peut avoir l'air prétentieux. Je ne sais pas quel mot choisir. De dire, je vais essayer d'écrire une tragédie grecque avec 15 femmes québécoises dans une cuisine. Moi, je vais l'essayer. J'ai le goût de le faire. Ben, c'est une tragédie, c'est une comédie aussi. Ça s'appelle d'abord avant tout comédie. Mais prenons Aristophane, écrire une pièce d'Aristophane qui se passe dans une cuisine québécoise, je pense... Tu as 23 ans, donc tu es prétentieux. Je pense que c'est faisable. C'était beaucoup plus ce besoin-là que de protester, parce que on l'a souvent dit, Brassard et moi, à l'époque, on ne protestait pas contre les pièces de M. Dubé, de M. Gélina, parce que si M. Gélina avait écrit Les Belles-Sœurs 20 ans avant moi, 48, sa société l'aurait censuré. Mm. Alors, nous autres, on est arrivés, ma génération, au bon moment, on est arrivé au moment où les Québécois avaient besoin de se faire dire ces choses-là. Mais il y a ceux à qui appartenait la culture qui ne voulaient pas que ça se passe. Ça, c'est autre chose. C'est pas pendant qu'il y avait 7-8 journalistes qui parlaient contre les Belles-Sœurs, il y avait quand même 300 personnes tous les soirs qui braillaient puis qui riaient aux Belles-Sœurs.
Oui,
le public y allait, le public, lui, était prêt. Le public est toujours prêt à prendre des affaires. Tu as juste à dire, j'ai essayé quelque chose, ça te tente-tu? Le public, il va venir. Des fois, il va haïr ça, mais je veux dire, tandis que les gens à qui appartenait la culture, d'abord, j'en ai parlé un petit peu dans Le Trou dans le mur, on leur tirait le tapis de sous le pied, on leur enlevait ce qui leur appartenait, parce qu'il y en avait beaucoup là-dedans qui effectivement venaient d'ailleurs, qui s'étaient emparés de la culture d'ici et qui ne pouvaient plus travailler si nous autres, on prenait le pouvoir. On a pris le pouvoir tout à coup. Puis il y a des gens qui se sont trouvés sans travail parce qu'ils ne pouvaient pas travailler dans cette langue-là. C'est eux qui montraient. T'sais, la grande différence, excusez-moi, ça ne vous concerne pas, là. Mais je dis toujours que la grande différence entre les Français qui venaient ici avant et maintenant, c'est qu'avant, ils venaient nous montrer à vivre et maintenant, ils viennent vivre avec nous. Mm. Ce n'est pas du tout pareil.
C'est un compliment pour moi.
Ben oui, en fait. Oui.
Et je le prends pour un compliment. Alors.
Oui, vous êtes arrivé tard.
Justement, parce qu'il y a ce slogan, en fait, magnifique, d'ailleurs, je trouve. Mon fils de 12 ans, la première fois, c'est mon fils de 12 ans qui m'a... C'est important pour moi que ce soit mon fils qui me l'ait dit. Il m'a dit, viens, écoute, maman, ce slogan. Et c'est le slogan qui dit, la langue française, elle est bien québécoise.
Oui.
Quand vous l'entendez aujourd'hui, puis c'est vrai que c'est très beau, est-ce que vous vous sentez, je dirais, un peu père de tout ça? Qu'est-ce que ça vous évoque? Parce que c'est une victoire.
C'est vrai que j'ai 65 ans.
En 30 ans. Non, mais franchement, en 30 ans, c'est très important comme revirement de situation.
Oui, oui. Probablement, mais je ne pense pas à ces choses-là. C'est comme quand on me dit, quand tu écris, est-ce que tu sais que tu vas être traduit en 35 langues? Bien non, il ne faut pas que tu penses à ces choses-là. Quelque part, ça m'est égal même. Je dis, tant mieux. Comme je disais tout à l'heure, il y a une génération qui s'est exprimée en même temps, qui a dit des choses. Si ça a eu cet effet-là... Vous savez, quand on est artiste, on ne peut pas s'empêcher de faire les choses au cas où il y aura un épais qui ne nous comprenne pas. Sinon, on ne ferait jamais rien, nulle part, jamais. On n'écrirait rien, on ne ferait pas de film. Il y a toujours des épais qui ne nous comprennent pas, de toute façon. Il y a toujours des gens plus intelligents que nous qui savent si c'est bon ou si c'est pas bon ce qu'on fait. Alors, ça ne sert à rien de penser aux autres quand on travaille. Pendant qu'on le fait, on le fait pour soi. Mm. Alors, si j'ai eu cet effet-là, c'est pas moi qui ai eu cet effet-là, c'est ma pièce. C'est ce que j'ai écrit après, Puis c'est ce que les autres de ma génération ont fait. Après, en donnant naissance à une deuxième, troisième, on est quasiment rendu à une quatrième génération, là, en 40 ans, d'écrivains.
Oui, mais justement, je ne parlais pas que des belles-sœurs, parce que bien sûr, c'est la propédeutique, mais les années 70, c'est cette explosion de votre théâtre, principalement, bien sûr, des romans, mais c'est vraiment les années du théâtre. Ce sont des années tellement importantes aussi de l'explosion du théâtre que vous en faites aussi votre trilogie. Récemment, le cahier noir, rouge et bleu.
Je reviens là-dessus.
Vous revenez là-dessus. Oui. Vous êtes revenu là-dessus dans Le cœur découvert, y compris dans la série que vous avez écrite pour la télé là-dessus. Donc, c'est vraiment la naissance. Et aujourd'hui, 30 ans après, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, les étrangers, pas seulement les Français, mais les étrangers se rendent plus compte que les Québécois, de la révolution culturelle qui a eu lieu en 30 ans.
Oui. J'avais été interviewé par le fils de Mordecai Richler il y a une quinzaine d'années. Parce qu'à la BBC, je ne sais pas s'ils font ça encore, mais il y a 15 ans, à la BBC, ils produisaient encore des pièces à la radio. Ils avaient décidé de faire Sainte-Carmen de la Maine à la radio. Et comme ça ne faisait pas 2 heures, il leur manquait une demi-heure, ils avaient demandé au fils de Mordecai Richler, qui travaillait à la BBC à Londres, de venir à Montréal m'interviewer. Alors, il était venu m'interviewer, puis il m'avait dit, avant de venir vous voir, j'ai tout lu ce que vous avez produit, ce qui a été traduit de vous, parce qu'il ne faut pas lire en français. Alors, il avait lu, je ne sais pas, les chroniques, il avait lu beaucoup de choses. Puis il m'avait dit, je me suis rendu compte, je vais me lancer des fleurs, là. Je me suis rendu compte que vous êtes le seul auteur au 20e siècle à avoir fait voyager ces personnages du théâtre au roman, à la comédie musicale, aux chansons. Il y a des auteurs qui le font des fois, par exemple, il y a Ionesco, son personnage s'appelle toujours Béranger, même si ce n'est pas le même. Là. Mais je pense que vous êtes le seul auteur à avoir utilisé les mêmes personnages toute sa vie, les avoir fait voyager. Est-ce qu'on vous le dit, ça, ici? Puis j'ai dit non. Ici, ce qu'on me dit, c'est que juste de me répéter en le faisant. Au lieu de le prendre comme un compliment, pas encore Réona. Pas encore, pas encore la rue Fort, mais il y a même un journaliste qui était allé rencontrer des étudiants à l'École nationale de théâtre puis qui avait dit qu'il était atteint d'une fabrite aiguë, que si je parlais encore de la rue Fort, il allait vomir partout. Alors, les journalistes d'ici disent ça de moi, alors qu'un étranger, un Canadien anglais, mais qui vit à Londres, vient me dire que je suis le seul auteur du 20e. C'est quand même pas rien, là.
Non.
Je veux dire, avoir fait ça, coudonc, c'est peut-être mauvais ce que j'ai fait, mais au moins j'ai fait ça. Quelque part, là, mais c'est pas bon.
Il y a une chose qui est très importante pour moi quand j'ai préparé et quand je me suis penchée sur votre cas, c'était de... sur le fond de votre œuvre, je dirais, c'est votre... propension extraordinaire à créer des familles, je dirais à recréer des familles, à un tel point qu'il y a des livres
après avoir, après avoir mis une bombe dans la famille avec Mary Lou.
Voilà, mais ça c'est sûr, ça c'est les années 70 justement. Ouais. Après avoir mis une bombe, mais quand même des familles, parce qu'il y a des livres dans lesquels il y a des arbres géologiques on est rendu chez les
c'est
dinosaures.
Cute.
Bon. Généalogie.
Comme des astéroïdes
de vos personnages. Oui, c'est ça.
Je vais dire ça à la radio une fois.
Parfois, ça donne des
devant un homme miroir, plus au bord.
Non, j'allais dire, ça donne même naissance à des anges crochus, parfois.
Oui.
En tout cas, des arbres généalogiques de vos personnages. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une façon de créer des familles de personnages éclopés, mais tricotés serrés. Entre eux. Et puis d'autre part, il y a votre famille élective qui est celle du théâtre. Bien sûr, on parlait de Brassard, c'est tout à fait
des
considérable.
Acteurs, oui.
Des acteurs.
Cette fidélité-là, oui.
Des recréations, non pas de personnages solitaires, mais de personnages tricotés serrés entre eux.
Mais le mot recréation est important parce qu'après avoir mis une bombe dans la famille, comme tout être humain, je me suis recréé une famille. C'est un cliché, mais c'est vrai. Tout être humain connaît deux familles dans sa vie. Une famille qui lui est imposée, dans laquelle il est né, et ensuite une famille qu'il se fait, soit en reproduisant la première famille, en se mariant, en faisant des enfants, soit en choisissant des amis et en vivant au sein de ses amis.
Oui.
Alors, moi, c'est ce que j'ai élu dans ma vie. C'est ce que j'ai décidé de faire parce que je ne pouvais pas, pour des raisons évidentes, le fonder une famille.
Mais ça, c'est réel. Je veux dire, ils sont réels parce que ce sont les gens du théâtre qui font vivre vos personnages.
Oui.
Mais ce sont aussi vos personnages. Sans faire de comparaison excessive, parce qu'il n'y a pas d'autre comparaison au niveau du style, par exemple, mais quand j'ai lu le Anna Gavalda, Ensemble, c'est tout, je me suis dit... Voici la raison pour laquelle ce livre-là fonctionne, c'est que c'est l'histoire de quatre,
oui.
En fait,
cherche une famille,
rejetés hein. de la vie, un peu en marge, pour pas dire un peu déchet de la société française,
et qui se
serrent ensemble, oui. et donc qui se sauvent.
Et tout le monde
Mais
a besoin.
D'un coup,
de
j'ai
ça.
Retrouvé une sorte d'esprit un oui. peu à la Tremblay.
Tout le monde a besoin de ça. Tout le monde a besoin de. D'où l'importance des religions, quelque part. Malheureusement, si toutes les religions n'étaient pas aussi pourries, ça serait quelque chose de formidable. J'ai rien contre les religions, excepté que c'est comme les révolutions, c'est ce que ça devient après qui est épouvantable, mais ça part d'un besoin d'appartenir. Tout le monde a besoin. On vit en société parce qu'on a besoin les uns des autres. Tout le monde a besoin d'appartenir à un groupe, excepté que quand le groupe devient oppressant, quand le groupe prend plus d'importance que l'individu, là, les choses se gardent, puis ça donne la fin de la Révolution française, puis la fin de la religion catholique ici.
Oui. Oui.
Je pense.
En France, la Révolution française, c'est aussi la fin de la religion. C'est ces deux
oui,
choses
oui.
qui sont parallèles.
Oui. C'est la fin de la Révolution aussi, parce que les autres révolutions après ont duré quelques années que moi, mais n'ont jamais été aussi importantes.
Il y a une chose aussi dont je voulais parler avec vous, qui trouve ses sources dans les années 70, c'est que vous allez abondamment faire par la suite, c'est traduire et adapter d'autres auteurs. Ici, la première pièce, c'est Lysistrata, tout de même une adaptation d'Aristophane, pas n'importe qui. Votre première aventure avec Brassard, on peut pas. Là, ici, je donne les points de départ, je ne peux pas donner tous les développements, on va trouver des pierres blanches dans votre parcours. C'est très important, parce que vous aviez dit tout à l'heure, enfin pour moi c'est très important, que vous faisiez voyager vos personnages, vous voyagez vous-même, vous allez ailleurs voir en fait si vous y êtes et comment est-ce que vous pouvez parler d'ici. Et puis voici que vous nous apportez ici d'autres auteurs, alors que vous-même êtes traduit ailleurs. Donc ce voyage, et ce que vous a dit ce journaliste tout à l'heure, se fait dans les deux sens, c'est très important.
Oui.
C'est très important pour vous.
Mais ça a d'abord été... pour remplacer une injustice, et ensuite, c'est une gymnastique mentale que j'aime beaucoup de me forcer d'être obligé de respecter quelqu'un d'autre, de ne pas faire du Tremblay avec quelqu'un d'autre. Mais au départ, c'était vraiment pour réparer cette erreur immonde que quand on jouait des auteurs américains ici, le texte traversait l'Atlantique deux fois et nous revenait dans l'accent de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai toujours eu comme théorie qu'un spectacle, où qu'il soit dans le monde, est fait pour les gens qui vont venir le voir. Un point, c'est tout. Un spectacle à Montréal est fait pour les gens de Montréal qui vont venir le voir. C'est pour ça que quand on me dit comment est-ce qu'ils font pour traduire le joual en chinois, puis je leur dis c'est pas le joual qui traduit, c'est les pièces.
Mm.
Et ils ne savent pas ce qui manque. Ils disent toujours le joual en chinois, comment ça sonne, je ne sais pas. C'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que la pièce charrie, ce que les personnages disent pour des Chinois qui sont dans la salle. Alors, c'est ce que j'essayais de réparer parce que les textes américains nous arrivaient ici dans une espèce de français, même pas international, un français souvent très parisien. Et tous les auteurs américains qui sont nos cousins, hein, ils sont bien plus près de nous que les Français, même si nos racines viennent de France. Alors, j'avais vu une pièce à New York en 70 qui s'intitulait « The Effect of Gamma Rays on Men in the Moon Marigold » que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et j'étais allé voir mon éditeur à l'époque. Je ne sais pas pourquoi j'étais allé voir mon éditeur, mais j'avais dit « Écoutez, pourquoi on n'essaierait pas d'avoir les droits? J'aimerais ça, moi, pouvoir traduire cette pièce-là. » On avait pris l'avion tous les deux. On était allé voir l'agent de l'auteur qui s'appelait Paul Zenda. Il nous avait écoutés. Puis je pense que j'avais été convaincant parce que quelques semaines après, ils nous avaient donné les droits pour le Canada, même pas pour l'Amérique du Nord, c'était pour le Canada. Puis j'ai fait la traduction pour Denise Pelletier, qui était un triomphe extraordinaire et qui n'était pas en joual, mais c'était du théâtre américain qui nous parlait dans notre langue, qui parlait la même langue que les gens qui venaient le regarder. C'est pour ça que j'ai fait, moi, une traduction d'une pièce de Tchekhov, Oncle Vanya, en québécois, dont personne ne veut à travers le Québec. Encore aujourd'hui, personne ne veut jouer Tchekhov avec un accent québécois. Absolument personne. Ça fait 3 ans, 4 ans, je l'ai fait lire. Il n'y a pas un théâtre à Montréal, il n'y a pas un théâtre à Québec qui l'a lu. Personne ne peut accepter. Alors que, puis mon ultime argument, c'est toujours le même, c'est que le spectacle est fait pour les gens qui vont venir le voir. Pourquoi est-ce qu'on fait du... C'est pas une salle, c'est pas du joual, là, mais c'est parler... Et je suis parti de Kevin Klein. Kevin Klein a été le premier acteur américain il y a une quinzaine d'années à jouer, je pense que c'était Ivanov de Tchekhov. Tchekhov, c'est un trip d'acteur. Les acteurs aiment ça, le public n'aime pas beaucoup ça. C'est vrai, ça marche jamais, de Tchekhov. Mes acteurs adorent ça, bon. Et Kevin Klein, à un moment donné, il a dit, c'est peut-être à cause des traductions, parce qu'eux autres aussi, ils jouaient aux États-Unis, ils jouaient Tchekhov avec un accent british. Je lui dis, pourquoi on joue Tchekhov avec un accent british? Et depuis une quinzaine d'années, toutes les traductions, les nouvelles traductions se font aux États-Unis, et ils le font tous avec leur accent américain. Là, c'est pas un gros accent, ils ne parlent pas comme dans un film de cowboy, là, mais ils parlent américain aux Américains, et tout à coup, le public, depuis 15 ans, s'intéresse à Tchekhov.
Et du coup, oui, c'est ça, découvre
un autre. Mais personne ici veut, personne n'en veut.
Mais vous avez quand même réussi à transmettre beaucoup d'écrivains, comme par exemple Zindel, que vous traduisez plusieurs fois. Vous avez traduit et adapté une dizaine de pièces.
En plus, une trentaine. Mais comme je disais, c'est une gymnastique mentale que j'aime beaucoup, que de... de ne pas faire dire autre chose que ce qui est dans le texte. Mm-hmm. D'être très, très près de... Je suis maniaque dans mes traductions. Je reste très, très près du texte, ce que les Français ne font pas. Les Français, souvent, ils c'est des commentaires qu'ils font autour des répliques au lieu de traduire les répliques telles quelles. Tandis que moi, je me tiens très, très près du texte original.
Et quel est votre propre rapport? Encore une fois, on a eu d'autres écrivains ici qui ont un rapport très différent à leur texte traduit à l'étranger. Quel est votre rapport à la traduction de vos romans? Plus les romans, je dirais, que les pièces de théâtre.
Bien, je viens de le dire, c'est fait pour les gens qui vont les lire. J'ai vu, il y a 4 ou 5 ans, j'ai vu Le Vrai Monde en Suisse jouer par des Suisses qui avaient décidé de jouer le texte tel quel, mais avec leur accent. Il n'essayait pas de parler québécois. Pour moi, c'est... Oups! Touf! Pour moi, c'était d'une totale absurdité, mais les Suisses qui étaient dans la salle, qui venaient voir ce show-là, ce qu'ils voyaient, c'était ma pièce, puis c'est ça qui est important.
Oui, oui.
C'est ça qui est important. C'est pas les 3 Québécois qui vont passer par Genève et qui ont dit « C'est fait tellement plus que... » Ça n'a aucune importance, les 3 Québécois bitch qui vont aller voir la pièce. Ce qui est important, c'est les Suisses qui vont payer des francs suisses pour aller voir la pièce. C'est ça qui est important. Alors, j'ai décidé d'avoir ce rapport-là. Je le sais, quand c'est en anglais, je sais ce qui manque. Donc, je ne suis pas fou. Je le sais, je connais mon texte en français, puis je le comprends en anglais. Alors, je sais exactement ce qui manque, mais les autres, ils ne le sauront jamais. Mm. Ils ne connaissent pas les Québécois, ils ne le sauront jamais. On ne sait pas ce qui nous manque chez Tchekhov. J'ai dit 1000 fois depuis 40 ans que je souhaite à Tchekhov d'être encore un plus grand génie en italien, j'allais dire, en russe qu'en français ou en anglais, parce qu'il doit y avoir quelque chose pour les Russes dans son utilisation de la langue russe qui fait que c'est encore plus extraordinaire quand on est russe. Ça, on trouve ça évident quand je le dis, mais quand c'est des Québécois, on a des complexes. Ça se peut pas. Si on est Québécois, on perd plus, on en perd plus. Tchekhov, il en perd pas beaucoup. Mais un Québécois, il en perd plus. Ça se peut pas que ce soit bon dans une autre langue. Cette espèce de complexe d'infériorité-là, c'est pas nécessaire d'avoir un complexe de supériorité, mais il faut arrêter d'avoir des complexes comme ça. Si on est capable de pleurer devant Tchekhov, il n'y a aucune raison pour laquelle les Russes ne pourraient pas pleurer devant une pièce de Michel Marc-Bouchard ou de Serge Boucher.
Oui, mais d'ailleurs, vous savez que Tchekhov est beaucoup moins joué aujourd'hui en Russie qu'il ne l'est ailleurs. C'est tout à fait... C'est une autre question. Les années 80, c'est l'inverse d'une certaine façon des années 70 qui sont vraiment très marquées par le théâtre et l'explosion des personnages qu'on va retrouver ensuite de manière récurrente. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. C'est pas que ça revient, mais c'est exactement ça qu'on aime. Il y a un roman dans les années 70, bien sûr, qui est marquant et c'est à ton tour, Laura Cadieux, à la fin des années 70. Et puis le début des Chroniques du Plateau que vous conduirez, surtout pendant les années 80, et que vous achèverez à la fin des années 90. Mais les années 80, pour moi, c'est vraiment surtout l'explosion romanesque, finalement, avec quelques pièces de théâtre marquantes.
Albertine
et le vrai monde, c'est pas rien, c'est des pièces très importantes. Mais c'est quand même un univers plus romanesque. Et ma question, c'était celle-là. Comment est-ce que vous décidez? Est-ce que vous décidez que vous allez écrire une pièce de théâtre ou un roman?
Ça s'impose. Ce que je disais, je pense que j'avais raison de le dire, c'est que quand on est jeune, tout est de la faute des autres. On juge les autres, la société est pourrie pour telle et telle raison. C'est la faute de telle personne. Et quand on vieillit, on réfléchit. Pour moi, le théâtre, c'est une dénonciation au premier degré. Le roman, c'est une réflexion. Donc, je suis arrivé au roman plus tard, à partir du moment où j'étais un petit peu plus introspectif. Il y a des gens qui aiment beaucoup moins mes romans à cause de ça, qui aimaient le Tanguy des années 70, qui dénonçaient des choses. Puis quand je suis arrivé au roman, même les chroniques, il y a des gens qui trouvent que c'est un petit peu cute, je ne sais pas. Là. Alors que c'est juste, c'est normal parce que c'est quelqu'un qui réfléchit au lieu de tirer à bout portant.
Mais ça s'impose
de soi.
Oui. Est-ce que c'est excessif de dire que le théâtre, c'est d'abord du spectacle vivant aussi? Alors, vous y réfléchissez différemment?
C'est-à-dire que le besoin d'exprimer n'est pas la même chose. J'ai souvent dit aussi que j'écris du théâtre quand je veux crier des bêtises au monde, puis des romans quand je veux raconter une histoire à l'oreille de mon meilleur ami.
Oui.
C'est la grande différence entre les deux. C'est beaucoup plus doux au roman, c'est beaucoup plus pour expliquer à quelqu'un qui est soi d'abord. Tandis qu'au théâtre, le théâtre existe pour dénoncer à grands coups de hache et à grande douleur.
Justement, est-ce que ce mouvement-là s'est intensifié avec les années? Vous l'expliquez comment? Je veux dire, le besoin de chuchoter à l'oreille de votre meilleur.
Quand on vieillit, probablement. En anglais, il y a un mot que j'aime beaucoup qui est « mellowing ». Je ne sais pas comment traduire ce mot-là. Si je traduisais une pièce, j'aurais de la difficulté. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, ce n'est pas qu'on devient plus tiède. C'est plus réflexif. C'est plus de la... Pardon, excusez-moi. De la réflexion, c'est plus d'avoir envie de s'étendre sur les choses. Tu sais, écrire un roman, ça prend 6 mois, écrire une pièce, ça prend 11 jours. Tu sais, c'est prendre la peine d'expliquer les choses, d'exprimer les choses, de rentrer à l'intérieur des personnages, de décrire dans le même chapitre l'intérieur et l'extérieur, de décrire où ça se passe, puis d'entrer à l'intérieur du personnage. Le trip est complètement différent. Tandis qu'au théâtre, on est debout sur une scène, puis on casse tout.
Oui, puis bien sûr, c'est les dialogues. Est-ce que vous, Michel Tremblay, vous vous sentez aujourd'hui plus un homme de théâtre ou plus un romancier?
Je n'en ai pas la moindre idée. 55 ans. 51-49, si vous voulez, pour nous rappeler un mauvais souvenir. Mais lequel est 51, lequel est 49, je ne sais pas.
À partir de quel moment exactement vous sentez ce « mellowing » se développer?
L'arrivée de la grosse femme, c'est qu'en 77, je venais de finir d'année Manon à Cassandra. J'avais plus rien à écrire au théâtre. J'avais plus rien à dire au théâtre. J'ai eu la décence de me taire pendant un an et demi. Je n'ai rien écrit pendant un an et demi. Et là, j'ai eu envie de rajeunir mes personnages de 25 ans, d'essayer d'en faire des enfants ou des jeunes adultes, parce que tout le monde veut être heureux. Personne ne l'est, mais tout le monde veut être heureux. Puis j'ai voulu savoir ce qui avait fait que mes personnages étaient devenus les monstres qu'ils étaient au théâtre. Alors là, je les ai à la génie de 20 ans, et en faisant des enfants et en faisant des jeunes adultes, c'est devenu plus réfléchi, c'est devenu plus... Au lieu de dénoncer, on va essayer de comprendre ce qui les a menés à la dénonciation. Donc, c'est à partir de ce moment-là, probablement. Puis j'avais... Quel âge j'avais en 78? J'avais 36 ans. Alors, j'étais un petit peu plus vieux.
Donc, ça se développe dans les années 80. La production est gigantesque parce que quand même, il y a vraiment une production en plus qui est régulière, annuelle. Et pourtant, référence encore à une entrevue qu'on a faite, vous me disiez que tous les matins, vous aviez toujours la danse de l'ordinateur.
Ma Cette danse autour de l'ordinateur. Bien, c'est parce que je suis mon propre boss. Il n'y a personne qui va m'amener par la main puis je ne pointonne pas. Personne ne va me dire « il faut que tu ailles travailler, il faut que je me le dise ». Depuis qu'on s'est vu, d'ailleurs, pour mes amis, chaque matin à Key West, quand on finit le petit déjeuner, j'ai développé une habitude. Chaque jour, quand je finis mon café, je regarde mes amis puis je leur dis, bon, bien, si on veut revenir à Key West l'année prochaine, je vais aller gagner ma vie. Alors, c'est la façon que j'ai d'éviter ce que j'appelais la danse autour de l'ordinateur, c'est-à-dire, il faut que je me lève de ma table, il faut que je m'en aille, pendant que mes amis continuent à s'amuser, il faut que je m'en aille devant mon écran catholique, comme je dis toujours, et il faut que j'aille. C'est pas vrai que je gagne, que c'est pour gagner ma vie, mais c'est pour me convaincre d'y aller.
Mais dans cette danse autour de l'ordinateur, il y a un rituel qui est aussi celui de l'angoisse, du doute, qui fait partie du rituel de l'écriture. Est-ce qu'il existe chez vous encore aujourd'hui?
Oh oui, oui. Le doute, c'est pas tellement pendant qu'on travaille. Le doute vient après. Quand je travaille, je suis pas mal sûr de moi, pas de la pertinence, là, mais je sais où je m'en vais puis je sais si ça va bien ou non. Mais aussitôt que je finis quelque chose, j'ai une espèce de soulagement, un cri de joie extraordinaire. Et tout de suite après, j'ai le postpartum pas mal difficile. Je suis le pire écrivain que je pourrais. Pourquoi je ferais publier ça? Pourquoi je ferais jouer ça? C'est mes bébites à moi, c'est mes problèmes à moi. Personne ne va s'y intéresser. C'est moi que ça concerne. C'est une question que je me posais, j'ai répondu. Là, bon. Et souvent, ça va m'arriver, j'espère, pour la traversée dans du continent en fin de semaine, parce que j'ai reçu hier les bonnes pages, les épreuves.
Oui.
Alors, je vais lire en fin de semaine, pour la dernière fois avant que ça devienne un livre, le texte de... Et souvent, c'est là que je me réconcilie avec les textes. Je me rends compte que, en fin de compte, c'est pas si mauvais.
Ben, c'est ça, mais c'est important. C'est ma question derrière ça, c'était de vous demander si après 50 ans, contrairement à ce que les gens pensent souvent, après 50 ans d'écriture, je dirais, c'est pas plus difficile encore d'écrire. Est-ce que pour vous, c'est plus difficile ou est-ce que c'est plus facile?
C'est pas plus difficile. Mais c'est pas plus facile non plus. C'est toujours aussi difficile. C'est le même.
Chaque livre est toujours un premier livre?
Non.
Non, quand même pas.
Non. La virginité, on la perd une fois dans sa vie, puis on essaye de la retrouver, mais on la retrouve jamais. Non, c'est pas. Non. Mais le trip est différent. Les raisons pour lesquelles on travaille, c'est les mêmes. Ça change, mais c'est pas. C'est nouveau, mais c'est pas le premier, chaque fois. Repartir de zéro, c'est assez le fun, mais c'est pas un zéro absolu, c'est un zéro qui vient à la suite de quelque chose d'autre.
Les années 90 sont des années plus introspectives encore, parce que c'est celle des romans assez autobiographiques, on dira, dans une certaine veine autobiographique, avec un besoin, mais on dirait que vous cherchez une nouvelle voie pendant ces années-là, non?
Bien, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé une chose pendant ces années-là qui est quand même unique, c'est que c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité, quand je parle du cœur découvert, là, quelles que soient les qualités du roman, là, c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que deux hommes pouvaient vivre non seulement ensemble, mais pouvaient élever un enfant.
Oui.
Alors, ça a été, dans les années 90, c'était ma grande découverte. Ma grande découverte, c'est-à-dire que j'ai décidé d'exprimer ça que... d'essayer d'écrire des livres, d'écrire des livres dans lesquels les héros seraient des homosexuels, donc dans le cas découvert qui élève un enfant, mais que tout le monde pourrait lire. C'est pas des romans gays écrits pour les gays, c'est des romans gays écrits pour tout le monde. Et quelques-uns des plus beaux commentaires, quelques-unes des plus belles lettres que j'ai reçues dans ma vie, de partout dans le monde francophone où le livre est sorti, ça a été au sujet de ce livre-là, que ce soit des hétéros, que ce soit des homosexuels, quelle que soit la qualité du cœur découvert, du cœur éclaté, de 44 minutes, 44 secondes, c'est des choses très, très, très importantes parce que ça exprime quelque chose. Anne Ponce, dans l'Express, avait dit du cœur découvert que jamais en France, un auteur français n'aurait osé écrire un livre aussi simple sur un sujet aussi hot, aussi chaud. Cette simplicité-là, d'essayer de décrire ça de façon à ce que tout le monde puisse le lire et puisse s'identifier à ces deux gars-là. Les commentaires que j'ai eus souvent, c'était des hommes, des femmes qui disaient « Je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était avant, puis je me suis rendu compte que je pouvais m'identifier à Mathieu et à Jean-Marc parfaitement comme si c'était des héros ou des héroïnes même de romans que je lis d'habitude. » Et c'est la recherche que je faisais dans les années 90 qu'on m'a beaucoup reproché, mais bon, c'était mon trip à moi, je l'ai fait, puis je persiste.
Il y en a eu, évidemment, il y a eu ces deux-là, il y a eu un ange crochu dont on parle, cornu, dont on parle depuis tout à l'heure. Bien sûr, il y a eu aussi Hôtel Bristol, l'homme qui écoutait siffler une bouilloire, etc. Il y a eu aussi, pendant ces années-là, dans votre vraie vie, la découverte de l'usage du wok.
Du wok?
Du wok.
Ah oui, du wok. Ben oui, mais où voulez-vous en venir? Oui, mais encore.
Non,
c'est-à-dire
que
c'est la découverte de la cuisine. Je sais où vous en venez. C'est la découverte de la cuisine, c'est que tant et aussi longtemps que je n'ai pas eu d'enfant dans ma vie, je n'ai pas fait à manger. Mm. Et cette vie de famille-là, que j'avais renié pourtant, le fait d'avoir un chum qui avait un fils, qui habitait avec nous tous les week-ends, m'a fait vivre, m'a fait découvrir une chose que je n'aurais pas découverte autrement, entre autres choses, c'est la cuisine. C'est-à-dire que j'étais obligé, tout à coup, j'avais une famille à nourrir.
Oui, oui.
Alors, j'étais obligé de faire à manger. Alors, j'ai fait à manger et c'est une grande découverte dans ma vie parce que je suis maintenant un excellent cuisinier. Sans enfant.
Sans enfant, c'est ça. Et dans les années 90, quand même, bon, surtout des romans, les romans qu'on a cités, et puis une pièce tout à fait essentielle, encore une fois, s'il vous plaît, qui vous vaut le prix du gouverneur général, mais qui est aussi une sorte de retour à la figure originelle. Ben,
c'est-à-dire que mon point de départ, c'était de remettre à ma mère, une fois pour toutes, le cadeau qu'elle m'avait fait du théâtre, d'en faire un personnage de théâtre, à qui, à la fin de la pièce, on lui dit « t'es un personnage de théâtre et je te remercie de m'avoir donné le sens du théâtre que tu m'as donné ». C'était la première idée de la pièce.
Alain Babancou, écrivain français d'origine africaine, disait à votre place qu'il écrivait toujours pour sa mère, morte dans son adolescence. Est-ce que vous écrivez aussi tout? Est-ce que vous avez l'impression d'écrire toujours pour elle?
C'est drôle parce que je dis plutôt le contraire. Moi, je dis toujours que tant et aussi longtemps que sa mère est vivante, on s'empêche de faire des choses. Le nombre de choses qu'on s'empêche de faire parce que sa mère est là. Puis moi, j'ai commencé à écrire en québécois quand ma mère est morte.
Mais moi, je ne suis pas sortie de l'auberge, alors.
Écrivez-vous? <Non. rire> Oui, c'est vrai, ben oui.
Non, mais le...
Il est deux heures.
C'est ça, on arrive à la... Je voulais vous poser une question, Michel. Est-ce que vous avez apporté votre sac avec vos documents à l'intérieur? Le cadeau que vous nous avez préparé.
Ben oui, mais là, c'est parce que je pensais qu'il était trop tard. Ils sont peut-être fatigués.
Et non!
Il y a quelqu'un qui dormait tout à l'heure. Là. Il s'est réveillé. Il a fini par se réveiller.
Mais non!
Parce
voyons!
On m'a demandé hier, j'ai su hier.
Justement, non, c'est important. Et c'est parce que c'est un cadeau considérable et tout à fait unique et qu'on a attendu. Et je ne sais pas où est votre sac, mais quelqu'un va peut-être aller chercher.
Non, je l'ai mis
ici. Ah, vous l'avez ici? Ah!
Parce qu'on m'a demandé de faire une lecture.
C'est ça, là, mais je voulais juste le présenter en disant que c'est vraiment le résultat.
J'ai décidé de lire quelques pages.
Termine en présentant quand même ce livre qui arrive dans les années 2000. Pour moi, les années 2000, si je résume rapidement, c'est quand même une sorte de nouvelle jeunesse sur tous les plans. Parce que, bon, il y a les trois cahiers qui sont une nouvelle veine romanesque. Ensuite, il y a le trou dans le mur qui exorcise le cancer de la gorge que vous avez combattu avec succès. Mais c'est aussi une nouvelle silhouette, un nouvel appartement... Finalement, une nouvelle inspiration.
Oui, bien, c'est la vie qui revient. On appelle ça le troisième âge, hein, mais bon. C'est une espèce de coup de jeunesse à cause de deux coups du destin. J'ai eu une tumeur au cerveau et 7 ans plus tard, un cancer. Quand on survit à ça, c'est sûr qu'il y a une force qui revient. Il y a une joie de vivre. Il y a un besoin de s'exprimer qui est nouveau, qui rajeunit. Oui, oui.
Michel Tremblay nous fait l'amitié de nous lire un extrait de son roman « La traversée du continent » qui va paraître le 3 octobre aux éditions Le Méac. C'était une surprise. Je lui ai demandé hier s'il accepterait de le faire et il a accepté pour nous. Et c'est très important, je crois, il va nous le dire lui-même, mais c'est comme il dit, lui, la genèse de la genèse. Moi, j'ai appelé ça le début du début. Pourquoi ? Sans se concerter. Pourquoi ? Parce qu'il y raconte, en fait, l'enfance de sa mère. Puisque, bien sûr, on sait, il l'a dit abondamment, que sa mère est non seulement très important dans sa vie littéraire et dans l'origine de sa vie littéraire, mais elle est devenue un personnage très important de son œuvre. Et voici qu'il revient sur l'enfance de celle qui lui a donné la vie. Et sa mère, en 1913, traverse le continent. Il a dit tout à l'heure, le continent canadien, il a dit tout à l'heure qu'il était Cree et Québécois d'origine française, donc par sa mère. Sa mère était donc la fille d'une Cree qui elle-même avait épousé un marin français. Et à un moment, sa mère la laisse dans une famille d'accueil dans son enfance, en Saskatchewan. Et à un moment, donc, la petite Réona, la mère de Michel Tremblay, est en Saskatchewan dans cette famille d'accueil. Et sa mère, sa vraie mère, qui se trouve donc à Montréal, la réclame auprès d'elle. Et voilà la petite fille qui doit traverser en train tout le continent canadien au début du XXe siècle, en partant de la Saskatchewan, en traversant l'Alberta, etc., par l'Ontario, enfin, voilà, et pour arriver à Montréal et, en fait, pour rentrer dans la réalité de Montréal, mais aussi dans la réalité de son rapport à sa mère, puisque, bien sûr, pour elle, qui vivait en Saskatchewan dans une famille d'accueil, autant sa mère que Montréal étaient presque des mondes imaginaires. Alors, c'est tout à fait... on est très intrigués. Alors, j'ai tout raconté.
Ah.
Donc, maintenant, je suis bien contente que vous soyez arrivés maintenant parce que je n'avais plus rien à dire. Et donc, Michel Tremblay nous fait l'amitié de nous lire un extrait de ce roman qui va paraître bientôt après qu'il ait relu Les Bonnes Feuilles ce
oui.
week-end.
Alors, on est la veille du départ de Réona pour la veille du jour où elle doit prendre le train. D'abord pour... Saskatoon, ensuite pour Winnipeg, ensuite pour Toronto, ensuite pour Ottawa et ensuite pour Montréal. Elle va avoir 11 ans, merci, elle a 10 ans. La légende veut que lorsque le grand Manitou a eu terminé de dessiner la Saskatchewan à l'aide d'un morceau de fusain, quelques coups de crayon en guise d'horizon plat, une élévation ou deux pour briser la monotonie, un groupe de nuages dans le ciel parce que c'est plus joli, il se serait rendu compte que tout ça était bien vide et aurait décidé d'inventer les céréales pour ajouter de la couleur et du mouvement. Le blé, l'avoine, le seigle et les autres graminées seraient donc apparus et en dernier, le majestueux blé d'Inde qui peut monter jusqu'à 8 pieds de haut à la fin août et, avec l'aide du vent, imiter à s'y méprendre le bruit de la mer qu'il n'a pourtant jamais connu. Il aurait ensuite peuplé tout ça d'animaux des plaines, de volatiles gras et appétissants, d'affreuses choses rampantes aussi, vers de terre et serpents de toutes sortes, les vers afin d'aérer la terre, les serpents qui contrôlent la population de petits animaux, avant de se résoudre à fabriquer le premier être humain, un Indien cri, bien sûr, pour régner, surveiller, organiser, sauvegarder. La légende ne dit pas si le premier Cree était un cultivateur, s'il a tout de suite compris l'importance des céréales ou découvert la saveur sucrée du maïs et ses vertus nutritives du premier coup, mais on prétend qu'il lui a dès le début voué une vénération sans borne, qu'il l'avait élevé au rang de mythe, son premier peut-être le plus important, qu'il lui a même inventé une légende qui veut que lorsque le grand Manitou a eu terminé de créer la Saskatchewan, c'est donc une légende qui se mord la queue et qui se trouve par le fait même invérifiable, comme toute bonne légende qui se respecte. Cette même légende prétend aussi que le grand Manitou, allez savoir pourquoi, a défendu à l'homme d'écouter pousser le blé d'Inde qui fait pourtant un boucan terrible la nuit quand il est en pleine croissance. On a le droit d'écouter ses craquements et ses sifflements si on ne se trouve pas au milieu d'un champ, en se promenant le long du chemin, par exemple, ou en fumant sa pipe sur le perron de sa maison, pour éloigner les moustiques après le souper en compagnie de sa famille, il est défendu toutefois de descendre du perron, de traverser le chemin et de s'avancer dans le champ du blé d'Inde dans le but de l'écouter pousser. Surtout les enfants. Pourquoi? D'aucuns prétendent, des révoltés, des têtes brûlées comme Maria Desrosiers, que c'est une histoire fabriquée de toutes pièces pour empêcher les jeunes gens d'aller faire dans les champs de maïs ce qui leur est défendu en dehors. S'ils ont tort, comme l'ont prétendu des générations de curés, on n'a jamais su la vraie raison. On ne la cherche pas. C'est comme ça, c'est tout. On n'a pas à réfléchir, on obéit. D'autres histoires, plus noires encore, plus sinistres, se sont ajoutées au fil des ans. La bête boulamite, qui pue et qui ronge les pieds des enfants surpris à errer dans les champs de maïs le soir tombé. Le bonhomme Satan qui transporte sur son dos une grande poche de jute dans laquelle il conserve les têtes des enfants désobéissants. Et c'est la version un peu plus secrète qu'on ne révèle qu'à ceux qui entrent dans l'adolescence. La fée, péché mortel, elle-même en personne, et ses promesses de concupiscence sans punition. Les sceptiques présentent que c'est d'ailleurs là le point de rencontre de la religion importée d'Europe et de celle, allô, plus naturelle. Les sceptiques prétendent que c'est d'ailleurs là le point de rencontre de la religion importée d'Europe et de celle plus naturelle, moins retorse, des peuplades d'origine de la Saskatchewan. Et ce serait à cette même jonction que le Dieu des chrétiens aurait remplacé le grand Manitou d'une façon définitive. Jamais, selon eux, le Dieu des cris n'aurait eu le mauvais goût d'inventer des histoires dans lesquelles ce qui est naturel ne l'est pas, ce qui ne l'est pas l'est. Pour les cris, la nature et la religion ne faisaient qu'un. Pour les Européens, la nature était païenne, sans loi, et on devait la renier autant que possible et surtout la séparer de la religion. Pourquoi? D'autres légendes, innombrables, inexplicables, sans fin. La légende était donc devenue une bête à deux têtes, avec deux origines différentes, la première l'emportant à la longue sur la deuxième, au fur et à mesure que l'Europe, que les Européens ou leurs descendants venaient s'installer dans la prairie en chassant les cris de leur terre. Et c'est à celle-ci qu'on croit, à Maria, Saskatchewan, en ce début du 20e siècle, et à laquelle va désobéir Réona Ratier, fille de Maria Desrosiers, 20 ans après sa mère. Emmitouflée dans sa parka d'hiver, qu'elle est allée déterrer dans le grand coffre en cèdre et qui s'enfare la boulamite, c'est d'ailleurs ça qui attire la bête boulamite à l'automne, semble-t-il, Réona traverse à la hâte et sans se retourner le petit chemin qui la sépare du champ de Dédain. Après tout, qu'est-ce qu'elle a à perdre cette nuit? En fin de compte, dans l'état où elle se trouve, la mort, aussi atroce soit-elle, serait la bienvenue. Elle se faufile entre les épis, presque deux fois plus haut qu'elle, s'avance à grands pas dans la nuit frisquette et mouillée. Elle sache sa parka contre elle pour que son corps ne perde pas de sa chaleur. Ce qui la frappe d'abord, c'est l'odeur forte de l'humus qu'ont arrosé les grandes pluies récentes et les céréales rendues à terme, prêtes à être coupées, battues, égrenées, engendrées, ou mangées dans le cas du blé d'Inde, tel quel, sur l'épi chaude, avec du beurre et du sel. La salive lui monte à la bouche et elle sourit dans la pénombre. Si ses grands-parents la voyaient, ou ses sœurs, pensaient à manger du blé d'Inde à un moment pareil. Elle avance à grands pas en poussant les épis qui se trouvent sur son chemin. Elle essaie d'aller le plus en ligne droite possible pour ne pas se perdre le jour, c'est plutôt facile. Si on s'égare parce qu'on a tourné en rond ou sans s'en rendre compte, on n'a qu'à appeler et grand-papa arrive en courant. Mais là, au milieu de la nuit, c'est vraiment pas le temps de tourner vers la gauche ni la droite si on veut retrouver son chemin. Elle regarde le ciel. Dieu que c'est beau! Elle ne sait pas lire dans les étoiles comme certains du village prétendent pouvoir le faire, expliquer le passé, prédire l'avenir avec comme seule arme la position dans le ciel des planètes à votre naissance et leur emplacement dans le présent, non. Elle ne pourrait pas non plus se guider sur elle et retrouver son chemin comme son père, le marin au long cours, qui a pourtant fini lui aussi par se fourvoyer en pleine mer et périr, un imbécile. Mais pour entendre pousser le blé d'Inde, il faudrait qu'elle arrête de marcher et qu'elle prête l'oreille, non? Elle fait trop bu avec ses bottes d'automne et... Et c'est elle qui fait craquer les épis en les repoussant pour avancer. Se coucher par terre, comme l'hiver, quand elle et ses sœurs dessinent des anges aux ailes déployées dans la neige? Non. Le sol est sans doute trop humide et elle ne veut pas attraper de rhume. Mourir, oui, sans problème si ça l'épargne l'exil. Mais un gros rhume de cerveau, non, c'est trop désagréable. Elle s'immobilise donc sous la voûte étoilée, saisit deux ou trois épis de maïs à bras-le-corps, et ferme les yeux. Qu'est-ce qu'elle va entendre en premier? Le craquement tant attendu, sac comme un coup de fouette, alors qu'un blé d'Inde va sortir du sol d'un pouce ou deux tout d'un coup, comme le veut la légende, ou l'arrivée des aides de la nuit qui l'ont senti, qui viennent la dévorer et qui se coulent peut-être en ce moment même entre les hauts épis pour venir lui brûler les pieds ou lui couper la tête. Elle sourit encore, mais cette fois, c'est un petit sourire. C'est drôle. Au milieu du danger comme ça, alors qu'elle devrait trembler de peur, c'est plutôt une espèce de paix qui lui est tombée dessus. Est-ce que ça veut dire que le danger au cœur de lui-même n'existe plus? C'est donc quand on en est éloigné qu'il l'impressionne, alors qu'en sa présence, alors qu'on devrait trembler, pleurer et demander grâce, on le trouve ridicule. Elle attend. 2 minutes. 5. Rien. Oh, il y a le vent, c'est vrai, toujours présent dans les plaines, mais elle le connaît bien et arrive à en faire abstraction. Non. Ce qu'elle attend, c'est un beau gros crack bien sonore, juste pour dire que ça existe, que le blé d'Inde pousse vraiment un grand coup de fouette retentissant et toujours la nuit. Alors lui vient à l'esprit l'idée que le maïs, en fin de compte, est peut-être rendu à pleine maturité, qu'il a fini de pousser, qu'il est trop tard pour l'entendre sortir de terre. Mais, soudain, bonheur suprême, un énorme craquement se fait entendre. C'est pas un bruit de pas, ni un appel d'animal, ni le vent dans les épis. C'est un vrai craquement de quelque chose d'énorme qui surgit du sol en poussant de toutes ses forces d'un être en pleine croissance qui veut vivre, qui veut s'affirmer, une manifestation de la nature qui explose de vie. Et Réona lance un cri de joie. Ah! Elle l'a entendu! Elle a entendu le blé d'Inde pousser et aucune bête ni aucun être maléfique n'est venu la terrasser pour la dévorer vivante ou la transporter comme un trophée au fond d'une cachette. Elle n'en attend pas un deuxième, cependant. Elle a eu ce qu'elle voulait. Elle fait demi-tour et revient vers la route sans se perdre. Elle voudrait se planter au milieu de la petite route de terre et hurler sa joie. Mais elle doit se contenir, ne rien révéler à personne et partir comme sa mère jadis, convaincue que les légendes ne sont que des légendes et le reste au monde moins dangereux qu'elle l'avait cru. Elle n'a toujours pas envie de partir, mais au moins, elle n'a plus peur. Deux heures de quart.
Mais non, Michel, nous ne sommes pas en retard. Et d'abord, je vous remercie pour ce très grand cadeau. Alors, je vous rappelle que le prochain livre de Michel Tremblay sort le 3 octobre.
Non, 3 novembre.
Ah, novembre? Oui. Moi, j'ai dit octobre, oh là là.
Non, c'est novembre.
Pardon, juste, donc, heureusement qu'il est là, le 3 novembre, juste avant le Salon du livre de Montréal, et avant qu'il ne reparte pour Key West, et pour ceux qui restent et qui ont encore le temps, vous pouvez bien sûr maintenant poser vos questions à Michel Tremblay.
Six questions il y a. Ouais, en bleu.
Je suis américain de souche et je vous salue de la part de tous vos lecteurs qui ont découvert vos œuvres aux États-Unis et qui remercient d'avoir trouvé sexy l'accent anglophone. Je voudrais vous demander comment vous vous placez vis-à-vis des historiens de l'histoire de Montréal.
De l'histoire quoi?
De l'histoire de Montréal.
Je pense pas que le but d'un romancier ou d'un auteur de théâtre soit historique. J'ai toujours dit que j'aime beaucoup la fiction. J'aime apprendre l'histoire à travers des histoires qu'on me raconte et non pas dans des livres d'histoire. Pour moi, des livres d'histoire, c'est un peu stérile. C'est des faits, c'est des choses qui sont passionnantes. Mais moi, j'aime ça savoir ce que Jeanne d'Arc mangeait pour petit déjeuner. Alors, j'aime beaucoup les romans historiques bien documentés. C'est ce que j'essaie de faire moi-même. Mais j'aime avoir la pâte humaine à l'intérieur d'une chose historique. Parce que la chose historique elle-même, elle nous explique qui on est, mais elle l'explique d'une façon plutôt sèche. Alors que moi, j'aime l'humidité.
Parce que Jeanne d'Arc ne mangeait rien. Chacun le sait.
Est anorexique.
Il y a des chances. Une autre question?
Tout? Donc, on va finir de bonne heure.
Oui. Oui, madame, je
allez
vous en prie, venez au micro.
J'entends juste une oreille. Alors,
et parlez fort, s'il vous plaît.
J'aimerais que vous donniez le titre du livre que vous avez écrit sur cette famille avec un enfant et deux homosexuels.
Le cœur découvert.
Le cœur découvert.
Oui, et la suite, c'est le cœur éclaté.
Merci beaucoup.
Plaisir. Vous avez bien aimé ça.
Qui a donné lieu à une série, d'ailleurs, sur Radio-Canada.
Un film aussi qui était assez bon. La série n'était pas bien bonne, mais le film était...
Oui, c'était
oui,
très...
monsieur.
Monsieur?
Votre prochain roman, c'est le premier que vous écrivez qui se passe à une époque que vous n'avez pas vécue, parce que vous avez beau recevoir des chèques, vous n'êtes pas né en 1913.
Non.
Est-ce que ça vous a demandé de travailler d'une façon différente, de faire de la recherche, d'écrire différemment?
Comme je dis toujours, quitte à me tromper, j'aime mieux tout imaginer que de faire trop de recherches. J'en fais, c'est sûr. J'essaie de ne pas faire de fautes d'anachronisme, par exemple, c'est bien évident. Mais j'ai mis en exergue de ce livre-là une phrase que j'avais déjà utilisée dans « Thérèse et Pierrette à l'école des Saints-Anges », qui est une citation de John Irving qui dit « Imagining something is better than remembering something ». J'ai l'impression que j'ai moins de chances de me tromper si j'invente tout que si tu es trop maniaquement documenté. C'est pas un documentaire que j'écris, c'est une œuvre de fiction. Alors, mais, par exemple, à un moment donné... Quand mon personnage arrive à Regina, je décris les tramways, puis d'un coup, je me suis dit, mon Dieu, 1913, est-ce qu'il y avait des tramways? Ça, c'est le genre d'erreur qu'il faut éviter. Alors, je suis allé sur... on aime beaucoup l'Internet à cause de ça, c'est bien commun. Calgary, 1913, tramway, et effectivement, il y avait des tramways depuis 1909. Alors, j'étais correct. Mais il y a des... Par exemple, j'avais commis une erreur. À un moment donné, quand elle arrive à Ottawa, elle traversait la ville avec sa tante dans une calèche, dans un phaéton, pour se rendre à l'hôtel. Et un de mes amis, Jean Fredette, qui est directeur du Centre culturel canadien à Paris, m'a dit, écoute, je suis venu au monde à Ottawa, moi, puis la gare était en face de l'hôtel du Château Laurier, l'autre bord de la rue. Alors, c'est le genre de choses qu'il faut éviter, bien sûr, mais ça, j'ai des amis pour me le dire. Alors, j'ai fait quelque chose d'autre avec.
D'autres questions? Pas d'autres questions.
On a été clair, alors, cette fois.
Il a répondu à toutes vos questions. Je vous remercie infiniment. Je remercie Michel Tremblay beaucoup d'avoir... d'avoir participé et inaugurer cette deuxième saison des rencontres littéraires de la Grande Bibliothèque. Et je vous invite à revenir le mois prochain avec Naïm Katane. Et merci beaucoup, Michel.
Plaisir. Bye.